18h, 20h, Fou de Sport, avec Mohamed Marouf sur Beurre FM.
Bonsoir, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche 18h, 20h, place à l'heure d'hiver pour suivre avec nous ces deux heures très passionnantes. J'étais en train de me préparer une petite introduction et puis j'ai sorti un gag qui a fait rire un petit peu l'équipe. On reviendra dessus parce que ça a été quand même le gag de la semaine qui a permis à Paris de ne pas prendre de but contre Marseille. Je n'en dis pas plus, vous allez comprendre pourquoi. Mais pour l'heure, il y a un gros dossier, un big dossier. Est-ce que, oui ou non, nous allons assister à l'un des plus gros scandales du football africain, mais vous me direz, c'est pas la première fois, mais là, ça pourrait être vraiment la catastrophe irréparable, à savoir l'annulation de la CAN. Je dis bien annulation, parce que le report n'a aucun sens, à moins d'envoyer même pas les coiffeurs. Moi, à la place de la sélection, j'enverrai les coiffeuses. S'il vous plaît, c'est parti jusqu'à 20h.
Jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM.
Et comme je sais que dans cette actualité, je le précise malgré tout, eh bien, vous suivez toute la semaine ce qui se passe sur cette sphère du globe, hein, le globe footballistique, bien entendu. Je salue Sofiane, lui il écrit tout pour ne pas oublier. Bonsoir Sofiane.
Salut Mohan, salut coach. Et bon grand bonsoir à tous les auditeurs. Il fait nuit là, ça y est.
T'as vu,
on rentre dans l'hiver. En plus, on a eu la pluie hier, avant-hier. Ça y est, et là.
Aujourd'hui.
Et aujourd'hui, bah, je sais parce que je suis parti courir sous la pluie. Donc, voilà, on a pris la drache.
Tu l'as bien senti.
Voilà, on est d'accord.
Bon. Alors, pour le présenter, de temps en temps, j'arrive toujours à trouver une phrase. Lorsque je prends tous les joueurs qui viennent de chez nous. Ah, c'est vrai, à la belle. Et quand il a commencé avec un sandwich omelette, frites, mskine, patata, il peut pas, etc. Donc il arrive presque. Alors passez-moi l'expression, je vais pas arriver jusque-là en parlant d'un individu familique. On n'est pas loin. Si je dois comparer, bien sûr, aux mastodontes que nous avons ici en Europe, qui sont nourris au yaourt et à la banane, oui, effectivement, on peut parler d'un individu familique. Mais oui, et pourtant, ce terme-là, je l'utiliserai tout à l'heure dans le cadre d'un temps de jeu concernant les joueurs qui sont en forme et qui ont besoin de quelques minutes. Mais on a préféré leur utiliser ce terme-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a tout ce que le coach me dit, mais qui ne reste pas dans l'oreille d'un sourd. Ben oui. Il me dit, mais Mohamed, mais tu sais très bien que c'est génétique, mais on ne pourra pas refaire le monde comme ça. Nos athlètes deviennent matures à 25 ans. Pourquoi il n'a pas tort? Eh bien, je prends uniquement le cas de Benzema qui s'éclate au grand jour après la trentaine. Bonsoir, coach.
Finaz Mohamed, tu as fait une très belle. Oh là là. Bonsoir à tous les auditrices, auditeurs, et c'est toujours un plaisir de t'entendre, Mohamed, parce que tu as toujours cette petite narration, cette petite pointe de poivre qui rajoute à... Non, tu sais comme moi qu'on est... On essaie d'être très sensé et de dire ce qu'on voit, et l'expérience, la vie, tout ce qu'elle nous apporte. Un lien, ça fait deux, quoi. C'est pas... Tu regardes les cultures, les peuples, il faut s'intéresser aussi à la culture des peuples.
L'anthropologie.
L'anthropologie, oui, tout à fait. Et ben, tu vas voir qu'il y a des signes qui sont... Et ce que tu vois dans la vie de tous les jours, tu le reproduis un petit peu dans le monde du sport, qui n'est pas en dehors de la société, qui est intégré complètement. Et tu vois que les comportements, tu vois les Européens, pourquoi ils réussissent plutôt, parce qu'ils ont une éducation très, très soft et très calme et très posée. Donc les enfants arrivent à maturité très vite et très jeune. Nous, les Algériens, on va dire les Maghrébins, parce que c'est un risque un peu. Nous, on crie un petit peu plus fort, on bride un peu plus au départ et après on lâche. Mais quand on lâche, il faut du temps. Surtout les mères. Quand elles prennent leurs enfants, pour les lâcher, t'as vu, c'est un truc de fou. Hein.
C'est très compliqué.
Ah oui. Donc après, tu reproduis ça simplement dans le football et tu vas avoir la même chose. Et donc tu as ça. Mais par contre, tu as sorti quand même la phrase magique. Il y a longtemps, je ne l'ai pas entendu. Le fameux mot yaourt banane. Il faut savoir, Sofiane, que ça, on l'a vécu quand t'es môme. En Algérie, il n'y avait pas de yaourt et de banane. Et quand tu venais avec une yaourt et une banane, c'est comme si tu avais ramené la terre entière. Et là, il l'a ressenti.
Moi, j'ai une anecdote par rapport à ça.
D'accord.
J'ai une vraie anecdote, mais vraiment vécue. Oui. bah, quand j'étais petit, je voyais mon père.
Ouais.
Et les yaourts, il les mangeait pas par 1, par 3, par 5, il les mangeait par 10. Il empilait les pots. Je comprenais pas pourquoi. Ouais. Et c'est ma mère qui m'a expliqué que voilà, t'as vu les
le manque.
On va pas dire les
oui, non, mais.
Pour bah, ne rien dire, les blédards. Voilà.
Oui, c'était véridique.
Voilà, et, les, ouais, les yaourts et les bananes, c'était, ouais, c'était
oui.
La quantité.
Tu offrais une banane à un enfant là-bas, t'avais offert la planète.
C'est ça.
Et Mohan, il est resté là-dessus, c'est ça que je voulais dire.
Voilà, tu vois.
Les enfants, lui, yaourt.
Parce que. Tu sais, là-bas, quand tu fais un match de foot, et, si tu as le droit à frites omelettes, c'est que tu as eu le plus sandwich. Hein. Et c'est ce qui fait que physiquement, effectivement, ce que Nasser décrit, lorsque les gamins grandissent, arrivent dans les clubs, etc. Aujourd'hui, je suis content, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants qui quittent le pays à 20, 21 ans. C'est déjà mieux qu'avant. Ça permet peut-être aux gamins de se développer, mais... Moi, je vois, par exemple, c'est la serre, cette histoire de Youssef Attal avec Miss. Même Galtier avait dit que Attal avait psychologiquement la peur de se blesser à nouveau, n'est pas parti. Et donc, il y a tout un travail psychologique qui est mené avec le garçon pour qu'il puisse doucement mais sûrement reprendre la confiance. Bah, la preuve aujourd'hui, il a fait les 90 minutes.
Oui. Bah, t'en as ta quatrième blessure, donc on va commencer à faire un petit bilan et expliquer un petit peu ce qui se passe. Après, bon, il faut savoir si qu'on est dans un championnat, un des top mondiaux. Je parle du monde, hein, dans les 10 premiers.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc t'as aussi les spécialistes, les médecins, les kinés, les ostéos, tout ce qui va avec, la prise en charge médicale, nutritionnelle, sommeil, il y a tout ça qui est en place aujourd'hui. Il faut savoir que le joueur aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est devenu une Formule 1. C'est une Formule 1. Donc on fait les petits réglages. Et là, Attal, il a pris le mur plusieurs fois dans la tête. Oui. Et là, on lui a dit c'est bon. Donc ils ont fait une étude. Et puis sûrement, ils ont dû faire ça. Hein.
Sûrement, oui.
Une étude exhaustive sur ce qui. Sur ses blessures qu'il a eues à répétition. Ils se sont peut-être rendu compte que, voilà, fallait, tu cours un peu moins. Tu cours plus, tu défends un peu plus et tu fais, t'en fais 4-5 par jour. Moi, si j'ai un de mes joueurs qui a ça aussi et je suis très près de lui parce que dans sa façon de dribbler, il est dans le même registre. Des petits courts détails, ces petits vifs très explosifs et ça sollicite les fibres sur les quadris, les ischios, c'est énorme, énorme. Tous les garçons qui ont des petits appuis qui tournent autour d'eux. Et c'est compliqué. Tu vas faire un tango si tu veux, c'est mieux.
Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, à travers les images, déjà quand il est revenu lors de ce fameux match contre Lyon, où il a marqué un but, il est à l'origine des deux autres.
Il est beaucoup plus posé.
Posé.
Plus tranquille.
Et puis, au niveau, musculairement parlant, c'est plus le même bonhomme. Pas si vous avez. J'ai regardé son physique, j'ai l'impression que. J'ai regardé les jambes de Attal, j'ai bien regardé. Ouais. Alors, je me dis, il a pris du muscle.
Je sais pas, moi, je.
Ouais.
Bien sûr. Bah, ça fait 2 ans qu'il est à Nice.
Voilà.
Qu'il a touché au miam miam, mais il a poussé les quadris. Il a poussé les kilos, on va dire. Oui, bien sûr. Bah, il a quel âge aujourd'hui, Attal ?
Il va sur 25 ans.
25,
là.
Ouais, il est en pleine maturité, là.
D'accord. C'est bien ce que tu me disais, Nasser. C'est l'âge de nos joueurs, la maturité.
On est retardataires sur beaucoup de choses, mais bon, là-dessus, au moins la nature fait son travail, quoi. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une petite équipe sympa qui arrive pour la deuxième Coupe du Monde, Inch'Allah, troisième.
Non, pardon, c'est même pas de suite,
puisqu'on n'était pas en 2018. On recommence un cycle, 3 sur 4. On n'était pas en 2018.
La seule fois où on l'a fait deux fois, c'était. Alors, on a fait 82-86.
Et 2010-2014.
2010-2014,
c'est ça. Voilà. Donc, ça sera la cinquième participation, s'il y a participation.
S'il y a participation, ça sera autre chose.
Je pensais, franchement.
En fait, Nasser, si tu veux, il y a un saut dans le temps. Ouais. Où la dernière Coupe du Monde qu'on a fait, c'était à 8 ans. C'est vrai qu'on Nasser avait l'impression que c'était la dernière.
Bah oui.
En 2014.
Bah oui.
Non, on a raté 2018.
On a raté 2018.
Ça voit qu'elle t'a pas marqué. Malgré le fait que la France l'ait gagné, elle t'a pas beaucoup marqué, apparemment.
La France a gagné, toi. Bien sûr, 2018.
Ouais.
C'est en Russie, ouais.
Qui nous a fait gagner.
Non, mais c'est vrai qu'en 2018, voilà, quoi. Ça nous a pas marqué,
nous,
forcément.
Qui nous a éliminés en 2018?
Les Allemands. En 2014.
En 2014, c'est l'Allemagne.
Les Allemands. Oui, mais 2018.
On l'a
pas dit. Non, on était en groupe avec le Nigeria, Zambie et Cameroun. En éliminatoire.
Oui, groupe de
Et c'est le Nigeria qui est passé premier.
qui a fini premier, qui s'est qualifié. Ouais. Avec, je crois, on a fait 4 sélectionneurs pour les 6 matchs.
D'accord.
Bon, on va rester dans l'actu de la semaine.
Allez. Fou de sport. La semaine sportive.
Bon, bah, je regardais, je me suis dit, mais mine de rien, nos joueurs, sont en forme. Ils reviennent, ils marquent des buts, ils ont du temps de jeu. Je pense notamment au retour de Rami et Ben Saïbani, que j'ai trouvé simplement excellent contre le Bayern, un doublé, mais surtout le plaisir de retrouver celui qui nous a manqué, c'est-à-dire cet arrière gauche qui a manqué à la sélection récemment, et on l'a bien vu.
Ben, quand t'as des joueurs comme ça qui viennent et qui ont été blessés pendant un mois, deux mois avant, et qui se reposent et qui reviennent en novembre et qui sont bons, on va dire tant mieux. Déjà, c'est ça aussi, c'est pas calculé, mais ça aussi, c'est aussi les impondérables qui se retournent et qui vont dans ton sens. Nous, on va arriver dans quelque chose qui, pour moi, est fondamental, c'est la qualification.
Même crucial, là, ouais.
Voilà,
ouais.
Mois de mars.
Mais avant mars, il y a ce fameux match contre le Burkina le 16 novembre. Là,
c'est comme il y a un peu de public. Ouais. Je pense que ça va faire la différence. Ouais. Mais quand on a des joueurs qui sont blessés, Mohamed, et qui reviennent en compétition et qui marchent un peu mieux que les autres, bien sûr, c'est leur fraîcheur qui vient là. Maintenant, moi, le parcours de Riyad Mahrez m'intéresse beaucoup. Ce qu'il fait, ça te montre réellement ce qu'est le top niveau du top niveau. Jouer à ce niveau-là, avec la répétition des matchs qu'il a, et tu le vois toujours aussi performant, c'est phénoménal. C'est un garçon qui...
Alors, que penses-tu des footix, bien utiliser le terme de footix, qui utilisent ce fameux terme d'un temps de jeu famélique, c'est en gros peanut, tu vois, parce que ils ont l'impression que ces garçons doivent jouer tout le temps.
Est-ce qu'ils
savent ce que c'est qu'un championnat d'Angleterre?
Oui, mais il faut surtout qu'ils viennent sur le terrain, qu'ils voient ce que c'est qu'un match de ce niveau-là, pour comprendre ce que c'est que la récupération de ce niveau-là. Et bon, après, eux, ils vont chercher la polémique. C'est oublié. Oui. Dès qu'il y a ça, ils vont dire Z. Mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Mais bon, on sait pertinemment que la gestion de temps pour les joueurs de ce niveau-là, pour les intensités de jeu qu'il y a là, avec les objectifs qu'ils ont, il est très important que les joueurs se reposent tous les trois matchs. On fait tourner, c'est ce qu'ils font. Hein. C'est tous les trois matchs, ils font tourner trois ou quatre matchs, ils font tourner les joueurs. Et c'est impeccable. Ça a l'air de marcher. T'as vu, Riyad, il est rentré hier 2 minutes de la fin ou 3 minutes
de
la fin.
Oui, oui.
Ça, c'est pour toi, c'est pour répondre à l'attente. Parce que t'as vu, il joue pas, mais hop, t'es sur le banc, tu es là. T'es pas chez toi, tu fais pas des conneries, quoi. Tu bouges pas, t'es dans le stade, t'es avec nous, et tu rentres à une minute.
On te garde sous pression.
T'as tout compris. Ouais. Voilà. Et ça, c'est aussi une stratégie. Pas stratégie, pas la sous pression pour le match, mais sur le banc, il était concerné par le résultat.
Ah, c'est important ça.
Ah oui, bah, quand t'es pas là, t'es chez toi et ton équipe elle a perdu, t'arrives comme un gogol le lendemain. L'homme parfait. Mais par contre,
c'est vrai que Riyad Mahrez, c'est plus le même joueur depuis quelques mois. Ouais. C'est-à-dire que avant, on lui faisait. Tu sais, souvent, on reprochait à Guardiola de pas le mettre. Mmh. On lui prêtait même des arrière-pensées.
Oui, bien sûr.
J'en dirais pas plus.
Ouais.
Mais
entre guillemets, anti-Mohamed, quoi. Voilà. Sans parler.
Voilà, franquiste.
Oui.
Et bon, au final, on s'est rendu compte qu'il en était rien.
Non, tu peux pas lui dire franquiste parce que c'était un catalan. Donc,
En plus.
Ah ouais, ça colle pas.
C'est clair. Mais on lui prêtait, voilà, des. Bon, en tout cas, il le faisait pas jouer. C'était il y a 2-3 ans. C'est vrai que bon, quand Riyad rentrait sur le terrain dans les gros matchs, on le voyait peut-être aussi du fait de cette pression que l'entraîneur lui mettait. Puis au final, regarde, depuis quelques mois, regarde, il est revenu dans l'équipe l'année dernière, titulaire dans les gros matchs. Contre le PSG, c'est lui qui fait la différence l'année dernière. Et cette année, même dans les gros matchs de première ligue, il est toujours là, il marque des buts, il est décisif. Et c'est vrai que je crois qu'il va sur les 30 ans, Mahrez. Donc aussi, lui, là, il est au summum, au crépuscule de sa carrière.
C'est ce qu'on appelle la progression. Et ouais. C'est ce qui fait que chaque année, les équipes tournent. Il y a des joueurs qui réapparaissent ou qui apparaissent. Et Riyad devient un joueur incontournable pour City. Ce que j'ai vu, hier, il est incontournable. Ça veut dire qu'il a pris une telle position, c'est qu'aujourd'hui, il devient comme De Bruyne.
Oui.
Comme il joue lui, je joue moi. Après, Riyad, t'as vu... C'est un grand enfant, quand il joue comme un môme, comme un fou, ballon, il joue. Hein.
C'est important pour nous. Bah, écoutez, très bien, on va marquer une première pause dans cette émission. On se retrouve en deuxième partie avec notamment l'ensemble de ces joueurs qui qui se sont produits cette semaine. Certains sont revenus correctement sur le terrain, marquant des buts, etc. On rendra à la fin du premier quart d'heure aussi un hommage au gardien de but Mehdi Serbah qui nous a quittés. Nous, moi, je l'ai connu du temps de la JSK, c'est vrai. Moi, j'étais encore enfant. Nasser a dû sûrement le croiser parce que, bon, puisque Serbah est reparti à Cuba. Et là-bas, je sais que Nasser a rencontré des joueurs tels que Assad, etc. Et tout, il connaît tout le monde. On se retrouve dans un instant pour vous conter un petit peu tout ceci.
Foot de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Foot de sport, la semaine sportive.
Bon, on a parlé pardon, de Ben Sebaini, de Youssef Attal, qui commence à avoir du grand jeu. Et puis maintenant, on va parler d'un autre joueur que j'ai remarqué aussi, c'était hier. Il a mis beaucoup de temps parce que son transfert s'est avorté, ne s'est pas produit. On n'avait pas compris. Donc doucement mais sûrement, il est en train de reprendre confiance en lui, même si hier son équipe a été tenue en échec. Non, je veux parler de Farid Boulaya quand même.
Il a fait un match phénoménal.
Voilà.
Ouais, mais alors, il faut dire aussi dans le même match que Kazri met le but de l'année, mais que Oukidja est avancé à 35 mètres.
Ouais.
C'est marrant, il y en a qui voulaient mettre Oukidja à la place d'Umboli. Suivez mon regard.
Oui, j'ai compris.
Mais sur le but, ok, il met un but extraordinaire, Kazri, mais là, c'est pas normal d'être avancé comme ça. Tu as vu le but, Nasser?
Moi, j'ai entendu parler.
Ah, bah, regarde-le, Nasser.
Voilà,
il a fait le tour de la toile, de toute façon, pour pas le rater.
Ouais,
il met un but de 70 mètres. Ouais. Il lance dans son camp, un lob de 70 mètres.
C'est du rugby, ça.
Ouais. Général, mais c'est sûr que non, mais si tu abandonnes tes buts de moins 30 mètres, tu peux courir derrière, tu ne rattrapes pas.
C'est ce que notre ami Sofiane parlait, du fameux joueur libéraux, gardien libéraux. Neuer, c'est une référence.
Ouais, mais,
qui a fait ça.
Ouais, mais Neuer, c'est Neuer.
Et voilà.
Neuer, c'est que les joueurs n'ont pas pensé.
Et c'est vrai, du coup, on parle du but de l'année pour Wahbi Kazri. Je rappelle quand même que Wahbi Kazri, mine de rien, même si aujourd'hui c'est lui qui est en train de porter un peu sur ses épaules l'AS Saint-Étienne, Boudibouz a été mis au frigo, on ne le voit plus. Je pense que c'est terminé pour
ça fait plusieurs années qu'on n'entend plus parler de Boudibouz. Hein.
Ouais.
Plusieurs saisons.
Oh, déjà, avec Puel, ça va pas. Ouais. Un coup, au début, tu lui as fait confiance, après, ça n'a pas été le cas.
Alors, du coup, Mohan, si je peux me permettre, parce qu'on m'a expliqué que Saint-Étienne avait des joueurs extraordinaires, je pense que Farhat ferait pas tâche dans cette équipe, non?
Largement.
Alors, je sais pas, moi, la grande équipe de Saint-Etienne peut se permettre, avec Neyou et Moukoudi, je sais pas, je crois, ils sont derniers, je crois, avec 5 points.
Oui.
Bon, on nous explique que Farhat n'avait pas sa place. Bon, je sais pas si, ce que t'en penses, mais.
CQFD, monsieur Puel.
Voilà.
Ouais, voilà. Ouais. Ben oui, c'est ce que je pense aussi. Zinedine Farhat avait largement sa place. Il voulait l'avoir pour quasiment zéro.
Ouais. C'est-à-dire
que même un salaire qui n'avait aucun sens. Du coup, il a préféré rester à Nîmes, tout simplement. C'est bête, mais voilà, il y a eu lui. Il y a eu également l'histoire de Farid Boulaya, sur lequel Nasser revient. Non seulement il a fait un super match, il a marqué un but. Et c'est parce qu'il est, tout simplement, Farid Nasser est en train de reprendre sa place réellement. Alors, si Metz aujourd'hui est en danger, c'est parce que tout le début de saison, Farid n'était pas là.
Ouais. Oui, tout à fait.
On sent la différence.
Il y a mon ami, notre ami Courbis, qui a fait une belle analyse de lui hier, en disant que le destin de Metz était lié aux chaussures de Boulaya, ce que je pense moi aussi. Boulaya, c'est un joueur qui transmet, qui est décisif, qui est un buteur sur coup de pied arrêté. On l'a avec Mahrez pied gauche, mais on pourrait l'avancer au pied droit. C'est des atouts énormes. Après, on n'est pas dans les confidences pour connaître exactement pourquoi le pourquoi du comment, mais par contre, ce qu'on voit, c'est sa production, et Boulaya fait partie de ces joueurs algériens qui ont un petit peu la technique de Belloumi, qui ont un peu cette prestance dans le jeu, qui apporte toujours la différence, toujours. Et je sais que l'équipe d'Algérie en a besoin, c'est clair qu'on en a besoin, où on fait semblant de pas l'avoir. Maintenant, hier, il a été noté d'un remarquable match. Boulaya vient, ils ont fait match nul hier, c'est ça?
Un partout, oui.
Ouais.
Avec ce fameux but de Wahbi Kazri dont tu as parlé.
Oui, oui. Et tu te rends compte que voilà, les garçons qui ont un poids, qui ont une expérience, qui peuvent apporter un plus. C'est-à-dire que ça peut plus suffire. Aujourd'hui, dans le football aujourd'hui, c'est qu'on est obligé de créer, d'innover, de ramener quelque chose de nouveau qui va changer, parce que tout est vu, tout est dit. la télé, le cinéma, la télé, les matchs, les ralentis, tout. On sait tout sur les joueurs. Quand tu ramènes des fraîcheurs, des gens qui viennent un peu d'extérieur, qui viennent et qui ils peuvent rapporter une fraîcheur, ça, ça redonne du dynamisme, ça fait repartir les équipes. Je pense qu'il serait temps qu'on puisse voir, que ce soit lui ou Malahma, je le mets un petit peu de côté. Je n'en parlerai pas trop. Mais Boulaya, oui, moi je pense que dans le milieu de terrain algérien, il ferait. Il ajouterait cette petite note, tu vois, cette petite note qu'on a besoin de devant. Tu vois, vraiment. Pour vraiment compléter les matchs, tu vois. C'est ce que tu vois quand t'as le Real, quand t'avais Benzema, Cristiano Ronaldo.
C'est ça.
T'en avais pour tous les goûts, là. Délier les lignes gauche, droite, centre, qui tu voulais, il faisait la différence. Et ben nous, il nous manque un peu ça. Quand t'as Slimani, t'as Bounja, t'as ça, mais il te manque le. T'as Maresca à gauche et à droite, on n'a pas, ça devrait être Brahimi, mais c'est Belaïli, comme dirait mon ami Sofiane. Mais bon, moi je mets des guillemets. Et il te manque cette touche du. Celui qui va te faire la diff. Celui qui va être capable de faire la diff. Et c'est ça qui fait vraiment rendre ton équipe, lui donne encore un niveau supérieur. Et c'est ce que l'équipe d'Algérie attend. Hein.
Oui, parce qu'aujourd'hui, Nasser, on le voit, ces joueurs. Ils sont en forme, hein, si vous entendez dont on a parlé, ils sont en forme. Même le petit Zerouki, je sais que son équipe elle a pris le bouillon contre le PSV Eindhoven. Il a quand même marqué un superbe but. Hein. Ils ont perdu 5-2 contre le PSV. Mais le but de Zerouki, je l'ai vu franchement à 25 mètres, une frappe. J'ai dit, tiens,
Zerouki, il a. La performance des joueurs n'est pas liée au nombre de buts qu'ils marquent. Hein.
Non,
pas, surtout au poste où ils sont.
C'est à la qualité, non, c'est pas le nombre.
C'est le jeu, il faut regarder son nom, son jeu. Oui. Bah, c'est pas quand il marque des buts, on dit ah, il a marqué, il a marqué. Ouais. C'est pas son jeu, c'est pas son rôle à lui. Ouais. T'as des 9, 10, 17,
oui, la façon dont il l'a marqué.
C'est un atout en plus, c'est toujours un atout en plus. Un joueur marque, c'est toujours un atout en plus. Mais c'est pas dans ses critères à ces garçons-là de dire qu'il a fait un mois qu'il a marqué un but. Ça serait résumé quand même la prestation d'un joueur d'une heure et demie.
C'est ça, un but, oui, je suis d'accord.
Mais bon, on est un petit peu dans ce monde-là. De toute façon, tous les raccourcis sont bons. Et on sait bien que les journalistes, ils ont l'art et de nous expliquer que lui, il était bon parce qu'il a marqué. Non, c'est parce que la prestation du jeu, il y a le jeu avant de marquer des buts. C'est là qu'on regarde la prestation. Et cet après-midi, j'ai revu Leeds. Ah, ils ont gagné, là. Quel plaisir. Hein. Oh, quel plaisir quand ils jouent cette équipe-là. Ben, c'est pour te montrer que voilà, il y a des joueurs-là qui sont impressionnants. Impressionnants. Ils n'ont pas marqué de but. Hein. Et là, tu dis, voilà, c'est des joueurs comme ça qu'on cherche. On les veut. C'est la finalité du top niveau mondial. Tu as des garçons qui sont là, qui jouent dans des championnats de folie. On n'est pas obligatoirement assujetti à penser que tu marques des buts, donc tu es bon joueur. Tu marques pas, donc tu n'es pas bon. Ça, les attaquants, oui. Ça les marque, ça. Franchement, sur les passes des buts, ils ne marquent pas. Ça touche. Mais les autres joueurs, non. C'est la qualité du jeu, ce qu'il produit. Sur le plan défensif, offensif, il y a tout un critère qu'il faut. Pour que tu puisses avoir une équipe qui puisse, ou des joueurs qui puissent tenir le très très haut niveau dans le football mondial.
Ouais. Ah, puis en plus, même quand tu parles des buts, Nasser, il faut voir aussi le but, son importance dans le match. Est-ce que c'est un but décisif, pas décisif? Moi, je connaissais des joueurs qui marquaient des ribambelles de buts, mais pour moi, un but égalisateur ou le but du 1-0 qui te donne la victoire, c'est pas la même chose que le quatrième but du victoire 4-0, tu vois.
Mais n'oubliez pas que les buts, c'est la finalité d'un jeu.
Oui, bien sûr.
La finalité des actions.
Bien sûr. Bah oui.
C'est toujours en football. Hein.
Voilà. Si tu n'as pas de finalité, si tu n'as pas construit, préparé bien avant, tu peux pas marquer. Ou bon, tu peux marquer sur les aléas du football. Mais ça ne rentre pas dans ses capacités du joueur. C'est ce qui est compliqué, c'est que comme vous êtes des journalistes, vous résumez tout au plus court. C'est-à-dire qu'on est le nom, mais le buteur.
On est dans l'instant.
Voilà. Et donc, tu résumes ça comme ça. Et moi, je te dis, attention, les gars, ces garçons-là, ils ont une capacité dans le jeu, ils jouent une heure et demie.
Moi, j'ai pas vu son match à Zerouki, donc je vais pas me prononcer. Tu vois.
Bah,
j'ai regardé
la vidéo.
Mais j'imagine que s'ils prennent 5-2, voilà.
Ah ouais, mais attends, c'est PSV en Novelle contre l'équipe de.
20, je crois, non
20, ouais.
Ouais.
Alors, il y a eu un fait de jeu. Nous avons tous assisté dimanche dernier à regarder la télévision autour d'un repas, n'est-ce pas, messieurs? Le match qu'on attendait tous, Marseille, Paris Saint-Germain.
Ils ont joué.
À un moment donné, t'avais Messi qui est parti. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'il va faire? Et hop, il y a un intrus. Il y a une espèce de Namous qui rentre. On ne sait pas comment. Et après enquête, il s'est avéré que c'était un DZ sans papier. à Harak sans papier. Mais alors là, il faut le faire. D'abord, comment le mec il a fait pour rentrer au stade?
C'est clair.
C'est pas possible. Comment il a fait pour rentrer au stade? Le match. Parce que son idole c'était Messi, il voulait s'approcher. Maintenant qu'il s'en fout, même s'il est viré à vie du stade, il s'en fout, il a été à côté de Messi. Voilà, voilà l'histoire de la semaine. Alors, vous en pensez quoi, vous?
Ah, c'est drôle, ça.
Hein, on va dire encore un DZ.
En tout cas, l'action sur le plan défensif, moi je salue. il arrête Messi qui part au but.
Ben oui, franchement. C'est ça.
Bien.
Et derrière, il n'y a pas de sanction, attention. Il hein. n'y a rien du tout. Hein.
Ah oui, parce qu'il n'est pas.
Ils l'ont remarqué, ils l'ont pris dans le bar.
Ah, il sort dehors. Bon, le mec, c'est un harak, il n'a pas de papier, il n'a rien sur lui. Non, mais c'est juste que moi, je voudrais savoir ce qui se passe au stade Vélodrome. Comment le type, il est rentré?
Mais c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours entendu qu'au Vélodrome, il y avait des fosses qui séparaient les tribunes du terrain. Enfin, des fosses, voilà quoi.
Ouais, assez profondes.
Assez profondes. Ouais. Donc, effectivement, ce serait intéressant de savoir comment il a réussi. Moi, c'est la première fois que je vois ça, en tout cas, au Vélodrome.
J'ai eu peur vraiment qu'il
agresse ou.
Ouais. On sait que c'est ça. Enfin, compte, non.
Non, pas du tout. D'ailleurs, il a expliqué, son geste, hein. C'était vraiment pour être proche de son idole. C'est tout. Voilà, il a trouvé un moment. Mais la vitesse à laquelle il a sauté, on voit bien que c'est un Fennec. Hein. Ah oui, il a bondi, il s'est retrouvé sur la pelouse. Je dirais que même la sécurité autour du stade a été prise au dépourvu. Hein.
Ils ont dit le fameux sacro-saint terrain.
Ouais.
On l'a touché au sacro-saint.
Le sanctuaire.
Oui, le sanctuaire, on l'a touché. Ouais. La punaise. Non, mais bon, pour dire, ça arrive. Oui, oui, ça arrive. Et
d'ailleurs, Messi est resté de marbre. Il a pas bougé, Messi.
Ouais. Ouais.
Bah, la case d'un grand joueur.
Hein. Bah, il y en a vécu d'autres.
Ouais, c'est exactement ça, ouais. Ils en ont vécu beaucoup, beaucoup d'autres.
C'est vrai. C'est vrai.
Mais bon, ça s'est bien fini, quoi. C'est ça l'histoire. Ouais. Mais moi, je vois comment il a couru, comment il l'a rattrapé, quoi.
Oui. C'est ça.
Je ferais qu'on le prenne de 100 mètres. Hein? On a peut-être un mec pour le 100 mètres algérien. Sur les Jeux Olympiques.
Ben oui. Non, mais ça a été une vitesse phénoménale. Ouais. On n'a rien vu. Hein.
Ceci dit, c'était l'action la plus intéressante du match. Parce qu'au demeurant, c'était un match très ennuyant.
C'est vrai.
Je crois que le même soir, il y avait des matchs en Espagne. On a perdu notre temps, là. C'est à la montagne à coucher d'une souris. On nous a vendu.
C'est-à-dire que les matchs qui étaient en Italie ou en Espagne étaient largement.
On nous a vendu le classico, la montagne à coucher d'une souris, quoi. C'était pas un match, quoi. C'était très, très. Enfin, à mon avis, hein, peut-être que je me trompe, mais moi, je trouvais ce match-là très, très ennuyant. Donc, au moins, cette action-là, elle a eu le mérite de un peu mettre du spectacle, quoi.
Ouais, mais. Après, c'est des matchs convenus, ça. On sent que c'est des matchs convenus. Ça veut dire que le match nul, avec tout ce qui s'est passé avant, tout ce qu'il y a eu, ça arrangeait tout le monde. La police, les dirigeants des deux clubs, les joueurs. Ils ont cherché, ils pouvaient mettre la petite bête, ils ne l'ont pas trouvé. Donc, c'est ce qu'on appelle des matchs convenus. Ça veut dire que c'est pas officiellement, tu vois, mais sur le terrain, on a senti que chacune des deux équipes acceptait le match nul. Ils poussaient, mais sans trop.
Mais oui, à un moment donné, on sentait que ça pouvait basculer plus ou moins. Et au final, comme tu dis, chacun s'est contenté de
bien sûr.
Points.
Bien sûr. Oui, parce que ça intéressait tout le monde. Parce qu'il y a la paix sociale et la paix civile derrière. Attention, n'oubliez pas, quand vous brassez des 50, 60 000 personnes dans des stades, la police ou du moins l'arbitre, lui, il est responsable de ce qui va se passer. Là, attention. Hein. Et on l'a senti. Moi, j'ai ressenti ça. Bon, après, je peux me tromper, mais. Je pense que Marseille, ça leur a donné moins de respirer un petit peu. Paris, ça leur a permis de préparer leur
ligue. En fait, un pari pas top, mais un pari qui est largement en tête.
Ouais.
Ça me sidère.
C'est ce qu'on appelle l'efficacité. Et c'est difficile d'expliquer aux gens qui ont vécu un petit peu ce qu'est l'efficacité. Oui. De penser que le Paris Saint-Germain, il n'y a pas plus efficace que cette équipe-là. Parce qu'elle a les joueurs pour. Elle a les joueurs pour ça.
En fait, ce sont les individualités aujourd'hui qui font le Paris Saint-Germain.
Oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que dans le match, il faut tenir le match, il faut tenir le résultat. L'organisation est plus ou moins là. On ne voit pas la touche de l'entraîneur parce qu'il n'existe pas pour moi. Mais tu vois les joueurs dedans, ils étaient menés à zéro et tu les piques au vif. Et eux, à un moment... Tu vois Neymar, tu dis ce que tu veux Neymar, mais quand il décide dans sa tête, il est dans la bascule, ben, il te retourne le match. Il l'a retourné, en plus sur le deuxième but, la classe, la passe là. J'ai senti Sofiane à ce moment-là sauter en l'air. Quand Dumarey l'a frappé, je l'ai senti, tu vois. J'ai dit, en plus, il reste rien du tout, il n'y a même plus de temps. Non, mais ça, c'est les grands joueurs. C'est pas du hasard tout ça. C'est les grands joueurs. Dans le monde entier, ils savent faire. Et ça, ils avaient besoin d'aller choper là. Même si Lille a joué, a produit du jeu, a dû marquer 2 buts, 3 buts. Mais bon, les six, voilà, il faut la mettre au fond, c'est tout. Le reste, il n'y a même pas besoin de parler. Il n'y a pas besoin de dire au-dessus, au-dessus. Le poteau, la barre, c'est une histoire pour dormir debout, ça. Il faut marquer. Si tu marques, tu gagnes. Voilà. Donc, PSG a gagné 9 matchs en marquant les buts avant Amsterdam.
C'est vrai, c'est 9 victoires, une défaite, un nul, je crois, c'est ça le bilan.
Voilà, la défaite, c'était à Rennes. Hein,
combien de Marseille, là
et le nul, c'est Marseille, là.
Oui, c'est ça.
Et ils ont gagné Lille.
Oui. Lille, hein, ouais. Façon, ouais. Non, mais le PSG, sur le plan comptable, il n'y a rien à dire. Hein, c'est largement en tête.
Bah c'est tout.
Non, mais,
sauf la phrase de Zlatan, qui a dit que ce
pays. Non, mais. Quand on compare avec ce qui se passe ailleurs, les gros autres grandes d'Europe. Tu vois le Bayern qui a perdu 5-0 parce que t'es dans un championnat où t'as des vraies équipes. Ouais. Où devant, il y a de la qualité. Quand je veux dire... le PSG doit bénir la Ligue 1. Doit bénir de tous les saints de toutes les religions. Mm-hmm. Que le championnat de France, ce soit un championnat où les... Après, à part le PSG, c'est très très moyen. Devant, quand je vois le match de Lille vendredi, c'est pas possible qu'une équipe comme ça de très très haut niveau... À un moment donné, tu cadres combien de frappes, je sais pas combien de frappes, tu marques un seul but. Tu marques une seule fois. Et c'est une équipe qui est en Ligue des Champions, soi-disant. Et c'est soi-disant quatrième budget du championnat de France. À un moment donné, il y a un souci quelque part aussi. Je vois en première ligue, Liverpool, ils se sont fait accrocher par.
C'est lié au porte-monnaie, c'est lié aux achats des joueurs, c'est tout.
On est d'accord là, c'est ça.
Bah, c'est tout. Il n'y a pas besoin, on le sait. Tu le sais, je le sais, on le sait. Donc après, on n'a pas besoin de rabâcher, de dire, ah, mais regarde, il n'y a pas. Bah, eux, ils les ont. Ah,
mais ça fait plaisir de le dire, moi.
Les PSG, ils les ont. Ceux qui savent cadrer.
Ouais, c'est vrai.
Eux, ils les ont. Ouais. Bah, comme eux, ils les ont pas, les autres les ont. Ouais. Et bah, voilà.
Mais parce que là, le PSG, concrètement, ils peuvent être comme ça jusqu'à la fin de la saison. Ils feront les 100 points en Ligue 1.
Tout à fait.
Ça suffira largement. Tu vois, c'est pour ça, moi, là-dessus, on peut pas reprocher au PSG. À un moment donné, il y a un championnat. Comment t'expliques que t'aies aucune des équipes qu'ils affrontent qui soit capable de les mettre de les pousser dans leur retranchement? Et alors que dans les matchs qu'on voit, on peut pas dire que les adversaires n'aient pas d'occasion, qu'il y a pas la, enfin, pour l'expression que j'aime pas trop, mais qu'il y a la place dans les matchs. Rappelle-toi Lyon qui avait eu le match PSG-Lyon, on l'avait regardé ensemble. Pareil, t'as Lyon qui fait une bonne heure de jeu, mais ça gagne à la fin, c'est PSG qui tienne, quoi. Pourtant, on parle du second budget.
Ce soir, Clermont balade Marseille, mais Marseille gagne. Je dis, Marseille, c'est la naissance d'une grande équipe, d'un grand club. Non, mais c'est pas difficile, c'est aussi ça. Mais c'est aussi ça, Mohamed. C'est ça l'histoire. C'est ça, cette histoire de dire, il faut. Parce qu'on est dans des espèces de registres où il faut être beau pour se marier. Le moche, il se marie pas, lui. Donc ça veut dire que si tu es bon et tu gagnes, là tu m'as fait plaisir. Mais si tu es mauvais et tu gagnes, là je t'aime pas. Et ça, c'est le discours des médias, des journalistes qu'on fait. Nous, il nous faut la qualité du jeu. Tu mets le bus derrière et tu gagnes, ça ne nous intéresse pas. Oui, mais il faut commencer par là pour que tu puisses gagner des matchs.
Parce que Paris, c'est pas ce que fait le PSG, Nasser. Oh. PSG, ils font rien. Ils font rien. On balance devant, Inch'Allah, Mbappé, Inch'Allah, Messi.
Il n'était pas là vendredi, excuse-moi.
Non, Messi, bon, Inch'Allah, Neymar, alors t'as raison, voilà. C'est ça, bah, voilà, ne me dis pas, ils mettent le bus. Ils font ni l'un ni l'autre, ils font rien.
Comment ils font rien?
Je jure, ils font rien.
Très bien, bah, écoutez.
Tu mets Mohamed, l'entraîneur du PSG, c'est pareil.
Bah, ouais. Bravo, Sofiane. Ouais. En plus, tu m'as choisi le PSG. Hein.
Bah oui.
Bon, allez, pause et je reviens dans un instant.
Fou de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Réagissez au 01 53 48 3000. Retrouvez toute l'équipe sur Facebook et Twitter.
Troisième partie de cette première heure de Fou de sport. On part directement du côté du Standard. Bonsoir, bienvenue.
Allô ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir, c'est Karim de Lyon.
Bonsoir Karim, comment vas-tu ?
Bien, et toi ?
Bah écoute, ça va, à part qu'il fait nuit très tôt maintenant, mais sinon ça va, ouais.
Ouais, mais bon, il fait beau quand même la nuit.
C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est pas désagréable de voir Paris-Bagdad, comme on dit.
Oui, oui, et puis je tiens à remercier toujours cette radio qui, selon moi, fait une très bonne émission de foot. Mmh. J'aime beaucoup l'écouter, et même par rapport à RMC et à toutes ces radios, je trouve que vous êtes vraiment... Bon, moi, j'apprécie beaucoup. Mmh.
Oui.
Donc, alors moi, j'ai envie de, avant d'aborder le, un peu Attal et Ben Sebani, j'ai envie de répondre à la question que tu as posée. Comment explique-t-il que le Fenech est rentré sur le stade?
Oui, ah bah tiens, tu as une réponse?
Moi j'ai essayé de te répondre à ma façon. Alors moi j'ai envie de te dire, quand t'as un type qui a traversé le détroit de Gibraltar à moitié à la nage, sur une planche, il a passé la barrière douanière, t'es arrivé jusqu'à Paris,
oui.
Tu prends franchement, tu vas pas, c'est un stade, tu vas l'arrêter.
D'accord. Oui, ça tient la route.
Bien sûr. Le gars, il est, pour lui, c'est un détail, ça.
Ben oui, non mais franchement, oui, j'avoue que. Alors, rien ne l'a arrêté, c'est pas une barrière de stade qui va l'arrêter.
Oui. Ben oui, Mohamed, t'étends pas demain si tu vas en Norvège.
Oui, bien sûr.
C'est pas un stade qui va l'arrêter.
Non, j'ai compris.
Donc, clair. Voilà. Alors, moi j'ai envie de dire sur Youssef Attal, un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, on a un joueur extraordinaire, Youssef Attal, et on peut se vanter d'avoir un joueur que pas beaucoup d'équipes possèdent. Et je dirais que pour moi, le plus sûr du Youssef Attal, vous rappelez, Vieira, il s'est fait virer.
Oui.
Il s'est fait virer quand Youssef Attal a commencé à avoir des blessures.
D'accord.
Et franchement, pour moi, Youssef Attal, il faisait le boulot de 3-4 fois. Il défendait, il faisait le milieu de terrain, il faisait l'attaquant, il faisait le centreur. Je veux dire, un joueur comme ça, il faisait un boulot incroyable, c'est normal qu'il se blesse. On dit qu'il était fragile. Non, il fait un boulot multiplié par 4. Donc, je pense que Youssef Attal, peut-être maintenant, il a compris que bon, le sacrifice, ben, ça se paye.
Ouais, aujourd'hui, voilà, il arrive à 25 ans, comme on le dit, maturité, etc. Et puis, la prise en main par le staff de Nice, il est en train de payer, là.
Voilà. Alors, moi, quand je sais que Youssef Attal est dans l'équipe nationale, j'ai une très, très grande confiance en l'équipe.
Ouais.
Parce que c'est un joueur tellement, j'allais dire, si vous ne marquez pas, il vient marquer. Il le sent, lui.
Oui, donc, c'est vrai.
C'est un joueur qui peut basculer un match plus qu'un attaquant encore des fois.
Et puis en plus on a Mehdi Zéphane derrière, donc il vaut mieux qu'il soit là, quoi.
Ben oui.
Oui. Et donc là on a un joueur, voilà, c'est quelqu'un qui peut marquer, qui peut amener le ballon devant la cage,
tout à fait.
Qui peut défendre, qui a des qualités athlétiques incroyables, comme disait Nasser, une vivacité incroyable, et surtout du caractère. Donc moi, Youssef Attal, je suis un grand fanatique. Après, je le compare toujours à Riyad Mahrez. Je dis, on a deux joueurs extraordinaires. Et puis, pour le cas Ben Sebani, moi, je trouve Ben Sebani, c'est surtout un joueur très, très, très rusé.
Ouais.
C'est un joueur, on va dire, voilà, c'est vraiment le véritable Fenech. C'est quelqu'un, il est infernal. Je l'ai vu la dernière fois, protéger son ballon, le gars, il pouvait toujours. Il sent les coups, il est vicieux. C'est un joueur qui a pas du football. Il a une mentalité. Il a beaucoup de. Je sais pas comment on dirait tout dans le foot, un peu comme les Italiens, vous savez.
Ah, bah oui. N'oubliez pas que Ben Sebaini, il est algérien. Mais comme son nom il se termine par un I, c'est comme les Italiens aussi qui se terminent par un I. Hein. Tu vois de quoi je parlais, Karim, hein. Allez, nous sommes des Italiens du Sud. Quoi.
Voilà, donc moi je trouve que là, Ben Sebaini aussi, c'est un joueur aussi qui a beaucoup de culot. Un culot incroyable, Ben Sebaini. Il est là, il tire les pénalties. Et lui aussi, il monte,
il marque,
capable de marquer contre Bayern, c'est pas la première fois. C'est le gars, il est impressionné par personne sur le terrain.
Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que voilà, dans son CV, il va dire, tiens, j'ai claqué du but à Manuel Neuer. c'est quelque chose.
Ah, mais bien sûr, de qui aurait pensé que Ben Sebaini parti du Paradou, il serait en face du Bayern et leur mettrait des buts. J'ai dit bravo. Et je termine simplement en disant, on attend la rentrée de ce jeune là qui est venu, là, je ne sais plus comment il s'appelle.
Amoura.
Non, pas Amoura. Il a intégré l'équipe, il n'est pas rentré, lui. Il n'est pas rentré, c'est un milieu de terrain ou derrière les attaquants petit, là.
De l'équipe nationale.
Oui. Il a pris dernièrement là.
Il a participé au stage.
Oui, il a participé au stage, ouais.
Donc il faudra. Alors il y a Adem Zorgan qui est rentré aussi.
Ouais, c'est pas lui.
C'est pas lui, c'est pas Adem Zalgan, c'est pas Amora. Alors, je ne vois pas d'autres. Peut-être que. Est-ce qu'il a été transféré en Europe ou pas?
Non, c'est un joueur qui vient d'Europe. C'est pas un joueur de.
Ah d'accord, c'est un joueur qui vient d'Europe.
Oui.
Ah, c'est pas de Reims, là?
Ah, oui, Kebal, oui. Oui, voilà.
Oui, ouais. Voilà, Kebal, voilà. Ah. Je suis impatient de voir ce que ce joueur est capable de faire sur le terrain et est-ce qu'il aura. Il aura cette facilité qu'il a en club, je ne sais pas. On parle d'un grand potentiel, je ne sais pas. J'aimerais bien voir ce joueur.
Oui.
Vraiment, c'est peut-être un très bon joueur qu'on a, je ne sais pas.
En tout cas, tout le monde dit le plus grand bien de lui, surtout au niveau des commentateurs ici en France, Karim. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est vrai que Belmadi l'avait appelé. Bon, c'est une première hein, qu'il intègre la sélection, il n'a pas joué. Mais on va voir la liste, c'est très important, qu'il va bientôt communiquer. C'est bien que bientôt, on va entrer dans une nouvelle fenêtre FIFA, avant que celle-ci se referme jusqu'à mars prochain. Ça veut dire que là, il y aura des listes, et qu'en principe, même pour la phase finale de la CAN, la Confédération africaine a accepté une augmentation du nombre de joueurs. Ce ne sera plus 23, ce sera 28 joueurs qui seraient autorisés par la CAF en raison de la pandémie.
Ah d'accord, ouais, c'est très bien. C'est,
voilà, ça veut dire que même Jamel, du coup, aura plus de possibilités, d'opportunités de créer un groupe un peu plus élargi et qui serait autorisé à voyager si la CAN se joue, parce qu'il y aura un débat là en deuxième heure qui concerne l'avenir de cette CAN au Cameroun. Hein.
Ouais, parce que on va dire en gros, c'est bien de voir de nouveaux joueurs arriver et voir ce potentiel de l'équipe d'Algérie peut-être.
Oui, et puis toujours des joueurs entourés par ce qu'on appelle les joueurs d'expérience. Tu sais, quand tu arrives dans la sélection, tu es jeune, tu es entouré par des garçons comme Riyad Mahrez, comme Slimani, comme Bounjer, comme Aïssa Mandi, etc. Bah, tu es dans une équipe déjà qui a du poids. Et c'est important aussi d'être mis en confiance par tes coéquipiers, quoi.
C'est certain, parce que faire des matchs en club, on va dire, et en
sélection,
internationaux, c'est internationaux, attention, c'est pas la même pression, je pense, et c'est pas dit que certains y arriveront.
C'est pas donné à tout le monde, attention. En plus, quand on parle de sélection, on n'est pas en Europe, on parle de sélection en Afrique. Hein, il faut voyager en Afrique déjà. Ouais.
En plus, en Afrique, tu peux multiplier par deux.
Oui.
Donc, après, on a la chance en ce moment, parce qu'ils vont jouer le prochain match en Égypte.
C'est ça.
Des joueurs, des terrains un peu moins calamiteux, si on peut dire.
En fait, finalement, la décision a été prise pour que ce match Algérie, plutôt Djibouti-Algérie, se joue en Égypte. L'équipe sera regroupée dès le 8 novembre prochain, non pas au CTN de Sidi Moussa, mais directement en Égypte. Les joueurs vont se retrouver là-bas pour rester 4 jours avant de jouer leur match le 12. Ils remontent aussitôt après le match pour affronter le Burkina le 16 novembre à Blida.
Tu as vu que Belmadi a un peu corrigé son erreur? T'as vu au début, la CAN est allée, à un moment donné, ils sont allés la veille ou deux jours avant?
Oui, l'histoire du match contre le Burkina à Marrakech, oui, absolument.
Voilà, et donc c'était peut-être quand même une petite erreur, hein, parce qu'il était à côté, il s'est dit on prend l'avion, alors que je pense qu'il aurait dû. Et là, cette fois-ci, j'ai l'impression qu'il s'est dit non. Parce que Djibouti, tout le monde parle du Burkina Faso, mais il ne faut pas qu'il y ait une contre-performance contre une
sélection. J'espère que non. Non, quand tu as une équipe comme ça, c'est sur un terrain en Égypte, en principe, on est parti pour faire plus au goal average. Il ne faut pas abuser. Ouais. Non.
Oui. Mais bon, voilà quoi. Et ben après, tu vois, il est allé, il ne prend pas le match à la légère. Ouais. Peut-être qu'on va gagner largement. Mais en tout cas, Jamel Belmadi, il essaie de préparer très, très, très sérieux. Parce que, admettons, même si on fait un nul là-bas, si on gagne par exemple contre le Burkina Faso, on passe devant.
Ouais.
Voilà mon cher Karim.
Mais c'est moi qui te remercie.
Merci.
Et puis voilà, je souhaite encore une bonne continuation.
À bientôt sur les antennes de Beurre FM.
Merci.
Voilà. Et puis c'est vrai que quand on analyse un peu ce qui se prépare là dans le calendrier international, on est revient à deuxième heure. Juste là, j'avais donné un petit peu les.
Mais j'ai pas compris moi hein, quand tu as dit le 8 rendez-vous directement en Égypte. Qu'est-ce que c'est ce truc là?
C'est bien à faire. Ou alors, est-ce que les joueurs vont arriver le 7 et puis lutter partout en Égypte?
Obligé, ça.
En tout cas, il n'y aura pas de regroupement à Sidi Moussa, ça c'est sûr.
Ah bon?
C'est vrai qu'ils vont arriver. Alors, je ne sais pas comment ils vont arriver. Alors, je vais demander à Sofiane de fouiner. Alors, Sofiane, c'est le roi de la
La grande fouine.
C'est la grande fouine hein, du calendrier. Il va simplement regarder les prochaines journées des championnats européens, puisque demain nous serons le 1er novembre. Ça veut dire que lundi prochain, Nasser,
ouais,
tous les joueurs de la sélection doivent être au Caire.
Ça m'étonne ça. Moi, ça m'étonne ça.
Mais Nasser,
j'ai jamais vu ça. Non, directement à l'Oukien. Les gens, ils partent d'Allemagne, de tous les pays là. Ça m'étonne.
Qu'est-ce qui t'intéresse, Mohamed? Bah, il y a une journée de championnat la semaine prochaine.
Oui, voilà. Est-ce qu'il y a une journée de championnat la semaine prochaine?
Oui, il y a une journée de championnat, oui.
Quand?
Là, je suis sur le 6.
Oui.
Donc, c'est samedi et dimanche aussi.
Au dimanche?
Oui.
Alors que le lundi, les joueurs doivent se retrouver en Égypte, Nasser. C'est de ça que je te parle, moi.
Voilà.
Eh oui, non, je suis comme toi. J'essaie juste de comprendre la réalité de ce calendrier. Comment est-ce que tout le monde va arriver
Mais impossible. Tu sais que... Impossible.
Pour être complet, il y a même de la Coupe d'Europe cette semaine.
Jamais vu.
Mais ils ne partiront pas le 9 en Égypte. Belmadi a demandé 4 jours avant. Ça veut dire que tous les joueurs doivent être en Algérie au plus tard dimanche pour partir lundi.
Ouais, c'est ça, ouais, toujours, oui, là oui. Mais qui partent tout seul individuellement en Égypte, c'est du jamais vu ça.
Après, il y a aussi ce fameux.
Qui réceptionne là-bas, oui. Quelle heure ils arrivent, c'est un truc de fou ça. C'est injouable ça.
Ouais. Je lis, je me documente,
ouais.
Et j'essaye de comprendre aussi, je suis comme toi. Et comme tu as été entraîneur et sélectionneur, tu connais les rouages. Des convocations des joueurs.
C'est plus important ça, déjà de récupérer ton équipe à Alger dans tes conditions à toi et tu prennes un vol spécial et tu descends directement en Égypte et tu ne vas pas faire arriver les joueurs un par un en Égypte, à l'aéroport. Tu connais l'aéroport d'Égypte? C'est 6 fois ou 10 fois le Roissy.
Hein?
L'aéroport du Caire. Oui. Oh, putain. Voilà.
D'accord.
Ouais, non, c'est injouable. Non. J'ai récupéré tout le monde d'Alger, ils prennent le vol spécial, ils descendent, ils préparent une Coupe du Monde, pas un match de quartier, là. Rendez-vous devant la piscine à 15h.
Oui, bon,
à l'hôtel.
Oui. À l'hôtel, en plus. Lequel? Trouve-le.
Oubliez pas votre valise et le petit sandwich.
C'est ça. Non, mais ce que je dis est important, là, ça. Hein.
Oui, très important. C'est vrai que j'étais surpris d'entendre que voilà,
je vais quand même relire les dépêches que j'ai lues, espérant que. Ouais. Tu as raison. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Ouais. Alors, autre chose également, sachez-le, c'est que j'avais dit à la fin de la première heure, je vais le faire juste après le top de 19h concernant Mehdi Selbah, avant d'entamer ce fameux gros dossier sur cette CAN, yes or no in Cameroun. Voilà, est-ce que cette CAN aura lieu au Cameroun ou pas? Je sais que notre ami est toujours là-bas au Cameroun. Notre ami Manu Kessak Mabouang, on espère l'avoir ultérieurement, pourquoi pas, pour qu'il nous parle de ce qui se passe réellement dans son pays. Eh oui, 19h, deuxième heure de foot, de sport. On continue avec l'actu de la semaine, puisqu'au départ, comme je vous l'ai dit, on a pris un petit retard sur le dossier de la semaine, mais on va le faire, hein, vous inquiétez pas. C'est un gros dossier parce que on va analyser avec l'équipe ce fameux calendrier sur les 3-4 prochaines années. Et vous allez comprendre aujourd'hui le danger qui menace la CAN avec la Covid qui a un petit peu dérouté tous les esprits.
Fou de sport, la semaine sportive. La semaine sportive.
Mais avant cela, je retourne du côté du standard. Mais avant le standard, tiens, Sofiane a une info insolite à vous raconter.
Ouais. Alors attends, ouais, non, c'est, j'ai vu passer ça, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, que la Lazio de Rome a fait monter un joueur dans son équipe première. Un joueur qui a un patronyme assez connu dans l'histoire, puisqu'il ne s'agit en fait que du, tout simplement de l'arrière-petit-fils du dictateur italien Mussolini.
El Duce.
Le Duce en personne, Florian.
Son petit nom, c'est Adolphe.
Non, c'est Floriano Mussolini. En sachant que, alors, ce qui est marrant, c'est que c'est sa mère qui s'appelle Mussolini. Donc c'est lui qui a choisi de d'avoir ce patronyme-là, et qu'en plus c'est lui aussi qui a choisi de jouer pour la Lazio.
Tout ça. Il a eu tout bon.
Ça en dit long sur l'engagement politique du petit-fils. Quoi.
Ah oui, là, on l'a compris là.
Hein. C'était assez drôle quoi, de voir ça.
Forza Roma.
La Lazio.
Surtout la Lazio.
Oui, je parle de la Lazio, bien sûr, pas la S-Rome.
Ouais. Je connais qui sont très proches de la Lazio. Hein.
D'accord. Non, mais, et puis, Nasser, dans l'info que j'ai donnée concernant la sélection, oui, ouais. Tu as sûrement un complément d'infos que tu as eu, parce que comme l'émission est suivie, tu m'as dit que finalement les joueurs sont tous convoqués à Paris.
Tout à fait.
Pour un départ lundi au Caire.
J'ai mon ami Momo qui m'a. Mohamed Amine qui m'a envoyé l'information en disant que le regroupement se faisait à Paris et le départ sur l'Égypte se faisait directement. De Paris.
D'accord.
Moindre mal, mais bon.
Et les joueurs qui jouent au Moyen-Orient
Ils viennent direct à Paris.
Ouais, ils vont faire Dubaï ou Doha, Paris, Paris-Le Caire.
C'est
insensé. Je pense que à des garçons comme Bounjah, comme Belaïli, ils sont beaucoup plus proches. Pour un billet d'avion, passe-moi l'expression, Doha-Le Caire, que de faire Doha-Paris, Paris-Le Caire.
C'est le problème des pays comme ça qui.
C'est parce que tout simplement, Djibouti ne peut pas recevoir à domicile et que tous ces matchs sont délocalisés. À l'origine, ce match devait se dérouler au Maroc. Il y a même eu une guerre de communiqués entre la fédération djiboutienne et le gouvernement de Djibouti sur la domiciliation de cette rencontre. Et finalement, la décision a été prise pour éviter tout quiproquo que ce match se joue finalement au Caire, au stade de défense de.
Non, mais quand tu es à deux matchs comme ça, quand tu as deux matchs à jouer très importants, tu peux pas jouer sur ça, sur les déplacements de joueurs et tout. Il faut créer une union rapidement, il faut ramener tout le monde, peu importe le temps que ça met. Mais tu as deux matchs à passer, là on rigole plus, là on n'est plus dans les premiers tours de Coupe du Monde, on est avant-dernier match. Il faut ramener tous les joueurs là où il faut qu'ils soient. Réellement, et faire partir le groupe ensemble et qu'ils aillent faire les deux matchs pour les gagner ensemble. Quand tu commences à dispatcher comme ça les gens un peu partout, c'est. Disons que ça va donner des armes à ceux qui ont besoin de moudre du café derrière.
D'accord.
Et qui viennent sur Paris, après partir directement sur là, ouais, pourquoi pas. Il y a 6 heures, hein, Paris-Dubaï.
En gros, ouais,
6 heures. Il y a un retour sur 3h30, je crois, le Caire. C'est ça, 3h30. Ouais, j'ai passé une journée là. Non, même pas, parce que c'est lundi.
Oui, c'est ça. C'est que lundi.
C'est compliqué.
Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est compliqué.
Moi, j'ai fait ce calcul, là, c'est.
Ça coule de source.
La pression atmosphérique, ils disent ouais, c'est pas grave, il prend l'avion. Mais attendez, mais quand vous êtes dans l'air, quand vous êtes à 12 000 mètres d'altitude, vous oubliez la pression atmosphérique.
Mais bien sûr.
Ah oui, ça agit sur le corps humain.
Il faut prier pour que ça n'ait pas d'incidence sur le résultat, quoi.
Non, mais à ce niveau-là, peut-être pas, mais.
Non, mais ce qu'on n'espère pas, s'il y a une mauvaise surprise contre Djibouti, je pense que si ça se passe comme ça, c'est-à-dire cette désorganisation là dont on est en train de parler, c'est parce qu'à mon avis, ils se disent que contre Djibouti, ça va passer. Si contre Djibouti ça passe pas, là ça risque de faire parler.
Non, mais le match il va passer, c'est pas le match qui est important, c'est toute la préparation. Tu ouvres les portes, c'est qu'à un moment les joueurs sont habitués à ce réglage, à cette minutie de réglage dans tous les grands clubs qui sont. C'est réglé comme du papier à musique.
Bien sûr. Pas.
Donc si toi t'arrives avec l'équipe nationale, tu dérègles un peu ça et tu mets des rancards un petit peu comme tu veux.
Bancal, ouais.
Ah ouais, là tu vas voir que là tu auras des retours que tu vas avoir des joueurs. Hein.
Ah d'accord.
Oui, les joueurs là-dessus ils sont. La transition là-dessus, hein, sur les retards, les rendez-vous, où ça, comment, quels moyens. Là, tu me dis à Paris et le Caire, mais pourquoi tu prends pas un vol Air Algérie d'Alger au Caire? Je comprends pas là, il y a un truc que je pige pas. Ouais.
Parce qu'il serait logique.
Ben oui.
Ouais.
Ben ils ont l'avion pour eux. Ils ont l'avion toujours.
Toujours maintenant. Oui, ce n'est plus l'équipe d'avant. Hein.
Voilà, c'est ça. Ben oui, j'ai connu ça.
Ok, oui. Coach, tes aventures avec la sélection ou avec les clubs que tu as dirigés. On le sait. Bon, on va aller du côté du Standard. Bonsoir. Allô? Je comprends. Allô?
Là, c'est le kit Maïk.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allô. Non mais, il y a un problème avec votre poste, monsieur. Réglez-le parce que je ne peux pas vous prendre comme ça l'antenne. Je ne comprends absolument pas ce que vous me dites. Vous éteignez le poste, c'est, sinon je vais passer au suivant. Allô.
Oui.
Ah bah je préfère, c'est mieux comme ça. Je vous écoute.
Ah, mais il est parti du coup.
Non, il est toujours là. J'ai l'impression qu'il n'a pas compris, c'est pas grave. Je vais passer à... Allez, on va passer à Malik, avant de parler quand même de le marhoum Mahdi Selbaha. Bonsoir Malik.
Bonsoir à Mohand. Bonsoir à Sofiane.
Bonsoir.
Bonsoir à Nassia.
Bonsoir.
Et bonsoir à Nava de l'autre côté. Oui.
Et il ne faut pas oublier Bouli Bouli.
Voilà, l'extra algérienne. Voilà. Moi, Mohand, je veux te dire un mot et tout ça. Mohand, il a fait un insulte à la radio. Ça se fait pas, il dit un joueur sans jeton. Voilà. Ah. Mohand.
Ouais.
Voilà. C'est insulte des origines de quelqu'un, ça se fait pas.
Bien, bah oui, t'as raison.
Ça... Non, ça se fait pas.
Ah, t'as raison.
Mais le moment que le joueur, il a fait des papiers, une insulte algérienne. Et tout ça, il est venu pour l'Algérie, c'est n'importe quelle nationalité, il veut jouer la nationalité algérienne. Même si un Brésilien, il va venir, il est dans des origines de pays, tout ça, c'est un interdit par la loi. Mmh. Voilà. La loi, c'est comme ça. Voilà. Plus, Benadi, il ne dit pas qu'il a dit Nasser, je suis d'accord avec lui à 100%, il revient petite Marie, ça m'insulte. Bon, qui va faire? Il va négocier avec lui, il va aller le voir direct dans le téléphone. S'il vient, il vient, s'il vient pas d'ailleurs. Ça y est. Voilà. Faut être intelligemment et faut être poliment.
Voilà, comme ça on passe au suivant.
Voilà. Bon, il y a des joueurs à Mohand.
Ah. Ah, je disais bien que tu avais des joueurs à me donner là.
Oui, mais il y a des Brésiliens en forme, il y a Bilal Hamari qui a marqué cette semaine. Voilà. Alors, peut-être que Bilal est blessé là.
Ah, il a joué. Mais il n'est pas sorti contre le match Brest-la-Monaco. Je sais que Brest a finalement abattu Monaco 2-0.
Belaïli, il est blessé.
Ah, tu parles de Belaïli?
Il est blessé, oui.
Ouais, bon.
Voilà. Ben, il faut ramener. Il faut que tu ramènes Bilal Hamari. Ok,
ouais. Bon, ben écoute.
Belgique.
Il joue encore en foot, lui?
Yacine Benzia, il est toujours à Dijon, non?
Hein?
Nerak, est-ce que Benzia, il est toujours à Dijon?
Il est toujours à Dijon, oui. Ouais.
D'accord, ok.
Bon, moi, il y a un autre joueur qui joue en Turquie, là. Mehdi Boujman de Guingamp, mais il y a longtemps, il joue avec l'autre Algérien, là. Hassan Achoua, un T-Sport, en Turc.
Oh là là.
Mehdi Boujman.
Non, je ne connais pas, franchement, non.
Il est parti de Guingamp, il y a longtemps, il y a 6 mois, 5 mois, là, non.
Ah, il nous faut un défenseur central. C'est pas sur stock là.
Malik,
c'est un bon 6
Malik, devant, c'est même pas la peine de me donner des joueurs. On a ce qu'il faut. Maintenant, on a besoin derrière.
Oui, derrière, il a convoqué Denis Hamash Wakila, qui est Zotak et tout ça.
Bah, mais ça, pour l'instant, Belmadi, il n'a pas donné la liste. Hein.
Oui, mais encore, pourquoi il n'a fait pas je ne sais pas s'il joue la même poste comme Belaïdi là. Sofiane Medica, qui joue en Arabie Saoudite.
Ouais, mais attends, c'est l'Arabie Saoudite, Malik. Hein.
Oui, mais il est pour lui, hein.
Ouais,
il est à la même poste.
Ouais, mais, le même poste. Mais hein, on parle des joueurs qui doivent, qui doivent aller en Afrique pour le combat. N'oubliez pas qu'en Afrique, c'est un combat.
Il a joué en équipe du sport à Sofia Medica. Il est bien. Hein. Ouais. Et le transfert de Mouledi en Arabie Saoudite.
Bon, écoute, pour l'instant. Tu sais, écoute, Malik, il y a la Confédération africaine de football qui a donné. Comme instruction, ou plutôt comme autorisation, l'utilisation de 5 joueurs supplémentaires. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 23 joueurs, tu as le droit d'avoir 28 joueurs pour faire la CAN.
Parce qu'ils vont jouer au tiers, là.
Ouais.
Ils vont jouer au tiers.
Ouais.
Attention, maman, il ne faut pas rigoler. On ne peut pas rigoler avec Burkina Faso. Leurs joueurs, ils sont prêts.
Ben écoute, leurs joueurs, ils sont prêts. Nos joueurs aussi, sont prêts. Hein.
Non, il faut qu'ils cherchent un attaquant percutant, maman.
À Noir, lequel
Je sais pas, vous pouvez me dire au moment où il y a
plusieurs devant. Non, mais tu sais que. Écoute. Malik, écoute-moi bien. Pour les Africains, c'est mon opinion.
Ouais.
Pour les Africains, il leur faut des garçons qui ont l'habitude de l'Afrique, de démonter les défenses. Bounja et Slimani suffiront largement à démonter la chaîne centrale du Burkina.
Mais Bounja, oui, mais Bounja, que Slimani, comment c'est comment Slimani
Non, Slimani, mais Slimani, même s'il ne marque pas, ouais, il va te démonter la défense.
Bonjour, il est en forme actuellement.
Ouais, mais bah, Bonjour, ouais, il est en forme au Qatar.
Voilà. Slimani, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection, les amis.
Tu peux le mettre dedans.
Non, mais attends.
Mais attention, ils ont deux joueurs.
Non, mais Slimani, c'est le meilleur buteur. Ouais, mais Amalek, aujourd'hui, écoute-moi bien, il reste deux matchs avant les barrages. D'accord ? Non, 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 oui, alors, ça veut dire que. Non, mais Amalek, ce que tu. Je vais essayer de faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le sélectionneur national ne peut pas se permettre de faire des essais. Il a un groupe. Élargi, il connaît ses joueurs, il va pas faire entrer un tel ou un tel pour faire plaisir, sinon l'équipe va partir en cacahuète. Jamais.
Mais
non,
il est blessé, il va
arrêter
10 jours
en 20 jours. Oui, mais blessé, blessé. Non, mais il a les joueurs qu'il faut par rapport à Belaïli, il a ce qu'il faut. Il y a le Pierre Moura, il y a Adem Zorkan. Non.
Non, il faut quelqu'un qui est solide à moi.
Non, mais attends, solide, mais les garçons, ils sont excellents, moi je les ai vus.
Oui, je sais. Mais
Bilal
Malani, il est bien.
Ouais, mais Bilal Malani, il a jamais dit ça.
Il est bien, moi. Non,
mais
moi, je vois devant. Vraiment. Moi, je vois d'un côté Bounja avec tout ça. Avec Benahman.
Bon. Écoute, Malik, bah, on va essayer. D'accord ?
Voilà, moi.
Bon.
Voilà, ils sont bien de Benika. Voilà. Ouais.
Mais tu sais que Jamal, il ne croit pas que. Bon, là, il est dans les salons en train de se tourner les pouces, il regarde les matchs, il a son staff, etc. Il bouge partout. Hein, non,
il faut qu'il gagne, c'est un match à Kenya, Alger. Donc, il faut qu'il fasse les choses.
Et même si tu gagnes contre le Burkina, tu n'es pas encore qualifié. Tu as les barrages au mois de mars.
Ça dépend si on va tomber, ça dépend.
Voilà. Eh bien, écoute, on a regardé les équipes qui restent, c'est du lourd qui reste.
Non, il faut qu'il gagne match par match.
Ouais. 4
par 4.
Eh ben
oui, voilà. Faut qu'il gagne. On a du joueur maintenant, on a beaucoup de joueurs.
Bon.
Vraiment. On a du joueur en Suède.
Ouais, non mais. Amalek, mais c'est. Ouais. Écoute, je vais dire une chose. Tu sais, Jamal Belmadi, même s'il a des noms de joueurs comme ça sur son calepin, comme tout entraîneur, hein, c'est normal, il y a aussi un staff qui voyage, qui regarde. Mais après, il choisit. Le groupe avec lequel il choisit le groupe avec lequel il va aller le plus loin possible. Il n'est pas là. Si tu veux, Jamal, son rôle, c'est de prendre les comment on appelle ça, c'est de prendre les meilleurs. Ben, bien sûr, heureusement.
Farhat, Zinedine
Farhat, oui, il est bien. Ouais, moi, aujourd'hui, attends, Malik. Non, mais Malik, attends, il faut écouter. Aujourd'hui. Attends, Malik, il faut me laisser finir ma phrase, sinon je ne peux pas te répondre. Eh oui, c'est un problème quand même. Il faut écouter d'abord. On avait parlé d'un garçon qui est au Havre, qui a été appelé par Belmadi, qui a été blessé contre la Tunisie. C'est Victor Lekhal, qui est le pendant de Alden Guedioura en physiquement parlant et même par rapport au poste. Ça, c'est quelqu'un qui est devant le défenseur. Est-ce que cette fois-ci, Belmadi va penser à lui, sachant que Adlan a repris avec Sheffield United. On ne sait pas, puisque la liste peut être élargie. On parle aujourd'hui, comme je l'ai dit, de 28 joueurs pour la CAN. C'est la CAN, elle a lieu. Voilà, merci Malika.
Moi, il y a beaucoup de blessures. Adam Loulet, il revient de temps en temps.
Ouais, mais Adam, il n'est pas encore revenu, mais il se blesse. Hein,
il n'est pas revenu. Il faut un attaquant en percutant, moi, il faut qu'il change.
Malik,
deux fois.
Merci, bonne soirée. Bon,
ah oui.
Il a des joueurs. J'ai l'impression qu'il veut les coller à Jamal.
Et si tu les prends par un, tu dois expliquer le pourquoi du comment. T'es pas sorti.
Là, ah oui, non bon. Mais attends, lui, il a un groupe avec lequel il travaille. Éventuellement, s'il y a un trou d'air, là, c'est rare. Hein, ça peut arriver. Un joueur se blesse, etc. Un sélectionneur, il doit déjà avoir une liste, on va dire, de près d'une quarantaine de joueurs. Et dans les 40, il y a un groupe restreint à peu près à 30. Et ensuite, aujourd'hui, la CAF, comme je l'ai dit à l'instant, autorise quand même 28 joueurs. On marque une pause. On entame ce fameux gros dossier sur cette CAN 2021 qui était censé se jouer en 2021 et qui risque de ne pas se jouer. À tout de suite.
Fou de sport revient dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à jusqu'à 20h. Fou de sport. Sur Beurre FM. Beurre FM.
Tout est parti d'un article sur, je crois que c'est Afrique Sport ou Afrique tout court avec un cas.com pour nous parler de cette fameuse CAN 2021. Alors, ça va être franchement le big dossier de cette émission, et pour cause, c'est que, est-ce que ça fait peur? La réponse est oui. Nous sommes à un tournant décisif de cette Coupe d'Afrique des Nations. Que se passe-t-il dans les coulisses? Pourquoi autant de bagarres? Pourquoi autant d'incertitudes? Techniquement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas changer cette CAN à 2 mois de son organisation. Derrière, on avait parlé aussi moi, j'avais lu apparemment des problèmes avec Samuel Eto'o, etc. et tout. Franchement, on ne sait pas. J'ai essayé d'avoir mon ami Kessak Mabon, qui est aussi Camerounais, international là-bas. Pour l'instant, voilà, on va dire, ça ne passe pas. Mais on va débattre ici ensemble. Et bien entendu, vos appels du côté du Standard pour donner votre opinion concernant cette CAN. Mais avant d'entamer le sujet, juste vous rappeler que il faut partir d'un constat post-Covid.
Les dossiers de Fou de Sport.
Pourquoi je parle post-Covid? Parce que jusqu'en 2019, tout se passait le plus normalement du monde. Avant que Issa Hayatou quitte ses fonctions de président de la Confédération après un règne de 30 ans, puisque la première fois qu'il a été élu remonte à 1988 au Maroc, et sa défaite contre Ahmed Ahmed également s'est déroulée également au Maroc, décidément. Ensuite, eh bien, avant de partir, il avait quand même, avec son comité exécutif, octroyé les trois compétitions suivantes pour permettre tout simplement à l'Afrique de s'organiser et de faire ce qu'on appelle construire des stades, des routes, des aéroports, permettre à l'Afrique de se développer. En donnant des compétitions comme ça à l'avance, ça donne aussi l'impression que l'Afrique est un continent qui bouge, d'ailleurs qui bouge, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Ne regardez pas uniquement les Tarzan et Jane, hein, y a pas que ça dans la vie. On s'est rendu compte que même si la décision a été louable, eh bien, dans les structures fédérales et les États, il y a toujours ce problème de leadership, ce problème d'intervention de l'État que la FIFA n'accepte pas. Et forcément, derrière, ça induit vers ce qu'on appelle un système dit de corruption. Ce sont les joueurs qui m'en parlent. Moi-même, bah, comme on dit dans le jargon, je n'ai pas de preuves, mais ça freine en tous les cas les projets parce que chacun veut sa part du gâteau dans ce qu'on appelle dans ces chantiers pharaoniques. Donc, lorsque la décision a été prise, c'était la manière suivante. On donne 2019 au Cameroun, 2021 Côte d'Ivoire et 2023 pour la Guinée. Bon, jusque-là, rien d'anormal. Sauf que le Cameroun n'était pas prêt pour 2019. Et on s'était dit qu'à un moment donné, au vu de ces infrastructures, le Maroc était en mesure d'organiser cette CAN. C'était le pays qui semblait avoir les faveurs de cette organisation continentale. Sauf qu'au dernier moment, la Fédération Royale Marocaine de Football dit non, je n'en veux pas. Et le bébé a été transmis à l'Égypte. L'Égypte organise la CAN 2019 à la place du Cameroun. Et du coup, le Cameroun dispose de 2 années supplémentaires pour organiser cette CAN. Et jusque-là, ok, on est d'accord. Sauf que M. Baouch, qui veut dire Covid-19, est arrivé en 2020 et il a chamboulé tous les calculs. Et je continue dans le même temps, parce qu'il faut aussi lier cette CAN à la Coupe du Monde au Qatar. Au début, tout était fait pour que la Coupe du Monde ait lieu en été au Qatar. Là aussi, il y a eu des problèmes, à savoir que la plupart des pays se sont plaints des très hautes températures au Moyen-Orient, même si on joue la nuit, même si on a des stades climatisés, le risque d'explosion des cas d'arrêt cardiaque était monstrueux. Et tout a été fait pour négocier la Coupe du Monde sur 3 semaines. Vous imaginez, 32 nations sur 3 semaines, entre novembre jusqu'à décembre. Et là, l'Afrique se retrouve, comme d'habitude, étant le dindon de la farce, hein, ce qu'on appelle hein, la petite girouette qu'on balade comme on veut. Et lorsque le Cameroun, qui devait organiser cette CAN, finalement s'est retrouvé avec la pandémie, a décalé cette CAN, il a accepté. Ok, d'accord, le Cameroun a accepté. Entre-temps, bien sûr, le Cameroun a investi, le Cameroun a développé des infrastructures. Il a même organisé le CHAN à domicile sur des pelouses magnifiques. Et on s'était dit, bon, malèche avec le petit décalage, on va faire cette CAN en janvier 2022. Bon, c'est un petit décalage, c'est-à-dire qu'on fait la CAN en janvier, voilà, on fait au mois de mars les matchs de barrage de Coupe du Monde et on va se retrouver en novembre pour la Coupe du Monde. Eh bien, et si on avait tout faux? Parce que même si les autres championnats, même si les autres compétitions sont maintenues, la CAN fait yo-yo. Nous, au jour d'aujourd'hui, nous ne savons même pas si celle-ci va se dérouler parce qu'il y a visiblement un problème de leadership dans cette compétition au Cameroun. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, si on part de ce qui a été dit, hein, en principe, les villes, hein, attention, les villes camerounaises sont prêtes pour cette CAN de 2021, et même le programme a déjà été annoncé, hein, jusqu'à la finale. Tout est réglé, on m'a dit, comme une horloge. Après, il y a eu un site d'info, un site qui s'appelle Kora.com, qui dit, malgré l'annonce de la date du 9 janvier 2022, des surprises ne sont pas à écarter et que la tenue de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations à sa date initiale pourrait être remise en cause. Alors, on dit, la CAN 2021 sera-t-elle à nouveau reportée? Mais reportée à quand? Attendez. Alors, j'ai lu, j'ai l'impression de rentrer dans, l'arriolisme du journalisme. Je ne sais même pas comment le dire. C'est là tellement qu'on est devenu...
C'est l'arioliste.
Voilà, on a abêti les esprits. Hein, on les a... Je ne sais pas, moi, je n'arrive même plus à comprendre comment on peut écrire de telles âneries. À ce moment-là, j'envoie les coiffeuses au mois de juillet pour se faire belle et aller jouer au football en Afrique. Parce que, au lieu de dire que soit on l'organise, soit on la décale à 2023 une bonne fois pour toutes, et on arrête de chipoter, soit on ne la joue pas, ou alors on la fait comme pour le CHAN avec les locaux. Mais imposer à des joueurs professionnels qui sont dans les grands clubs européens ces changements de calendrier, je trouve ça, comme le disait le regretté Jacques Chirac, abracadabrantesque. Et du coup, selon ce site, le Cameroun fait face à de nombreuses difficultés concernant l'organisation de cette CAN. Alors, pourquoi? Apparemment, on se dirige droit vers le retrait par la CAF de l'organisation de cette édition au Cameroun, comme cela a été le cas en 2019 lorsque la CAF a retiré l'organisation au Cameroun pour la confier à l'Égypte. Eh oui, mais sauf que, et selon la même source, les responsables de la CAF dépêchés au Cameroun pour le suivi des préparatifs, ce qui est normal à 2 mois de cette compétition, ont relevé plusieurs manquements, ce qui fait que la tenue de cette CAN à sa date initiale serait remise en cause. Et parmi les problèmes cités, l'impossibilité de compléter les équipements requis pour le début du tournoi, l'état de préparation des stades, le volet hébergement et hôtel. Et pourquoi on n'a pas soulevé ces problèmes pendant le CHAN? Le problème de vente des billets, le nombre de supporters autorisés à assister à chaque match, et enfin, le conflit opposant la présidence de la République du Cameroun à la Fédération camerounaise de football. Et devant cette situation, une source CAF a affirmé donc au site Kora.com que la question du retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun et la confier à un autre pays pour sa tenue à la date initiale n'est pas envisageable en raison du manque de temps. Et c'est vrai, on l'a dit même à Koutchou, on en a parlé. et de préciser que la CAF va certainement annoncer le report de la CAN 2021 pour l'été 2022. Mais vous rendez compte de ce que vous dites pour l'été 2022 ? Et trois mois après, vous avez une Coupe du Monde. Mais vous prenez les joueurs pour qui, là ? Ils vont pas venir. Je vous envoie l'équipe, même pas les U15 de l'Algérie. Bon, là, arrêtez. Car, alors, voilà, qu'est-ce qu'ils disent ? Car il sera impossible de l'organiser en 2023, vu que la CAF a déjà programmé une autre édition à cette date. Messieurs, annulez une CAN, sinon vous n'allez pas vous en sortir de ce merdier. Je suis désolé de le dire ce soir, c'est un coup de cœur, parce qu'on est otage de certains dirigeants, de certains incapables. Voilà, aujourd'hui, on est l'Afrique. Bon, messieurs, maintenant, je vous laisse le droit de réponse.
Grande réflexion, hein, punaise.
Je vous l'ai dit que j'allais m'éclater. Hein.
Ouais, ah, j'ai vu ça. Bah oui, tu exposes le cas réel de la Coupe d'Afrique. Hein. Et c'est pour ça que tu entends, tu vois, c'est pour ça que la FIFA, elle, va sûrement utiliser les dates, ou va essayer d'utiliser les dates, parce qu'elle veut les récupérer, parce que elle va expliquer que, vous avez vu, l'Afrique, c'est pas prêt pour aller faire des compétitions, et c'est tout ça qui va aller dans ce sens-là, tu vois. Ça, c'est compliqué. Maintenant, on est dans des suppositions, on n'est pas réellement dans le...
Oui, oui, attention, pour l'instant, c'est on va dire, Nasser, c'est tangent. Voilà. On n'en sait pas plus. Hein.
D'accord. Ouais.
Sont des déclarations d'officiels d'une commission qui est venue constater sur place au Cameroun.
Ouais, bah disons, elle va constater ce qu'elle a envie de constater. Maintenant, moi, ça m'étonnerait qu'au mois d'avant, quand ça, ils te retirent, à part l'histoire politique, à part c'est le coup d'État,
oui, comme ça.
Ouais. En Afrique, c'est il y en a beaucoup.
Mais c'est passé au Soudan il n'y a pas longtemps.
C'est ce que j'allais te dire. Donc ça peut revenir. Donc tu sais pas que, bon, pour un événement comme ça...
En Guinée aussi, pardon. Ouais.
Voilà, tu peux avoir cette problématique-là maintenant, ce qui n'est pas normal, ce qui, on le voit encore aujourd'hui, en 2020, t'as vu, c'est qu'en Afrique, c'est compliqué d'avoir des choses claires, nettes et précises, avec un cahier des charges, avec des dates. Là, on est encore dans l'approximation, on le voit même avec le Qatar, hein. Je sais pas si officiellement c'est fini les travaux au Qatar, mais je suis pas sûr. Mais
Il reste du temps.
Ah, il reste un an, quoi, mais encore.
Oui. Ouais, c'est ça.
Un an.
Bah oui, au lieu de juin 2022, c'est novembre, hein, donc
ouais. Un an. Ouais. Juste un an.
Ouais, mais bah, d'ici un an, ils vont finir.
Oui, j'espère. Ouais. Non, mais pour te dire que tu vois, même ça, compliqué, et quand on a M. Hayatou qui a voulu placer le Cameroun, faire une Coupe d'Afrique avant qu'il parte.
C'est exactement ça, parce que la seule qu'ils ont faite, c'était en 72.
Ouais, c'est...
Au siècle dernier. Hein.
Ouais. Moi, je pense que quand même. C'est la puissance juriste du roi qui avant de partir, nomme ses princes et nomme ses villes qu'il voulait.
Et désigne les pays qui vont organiser. Donc là, aujourd'hui, on est en train de payer, payer la gabegie de Hayatou.
C'est ça.
En désignant trois pays consécutifs, sachant qu'une première fois, il y a eu défaillance. Alors, on ne va pas commencer avec une deuxième défaillance, là. C'est pas possible, Nasser.
Si. Mais bon, je dis, ils ont une manne pour juin, donc ils peuvent l'utiliser, ils peuvent bloquer les dates là, et bon, une fois que l'amertume est passée, les clubs seront contents, tout le monde sera content, les joueurs restent là, et hop, en juin, tu fais la Coupe d'Afrique. Et ça va régler peut-être les problèmes. Maintenant, on sent quand même que c'est des règlements politiques propres à eux-mêmes, dans leur fonctionnement, là, dans leur pays, dans leur confédération, qui rejaillit sur tout le monde. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal.
Est-ce que tu prendrais le risque, toi, Nasser, si tu étais sélectionneur d'un pays, de prendre le risque d'accepter de jouer une CAN en juin, en sachant que trois mois après, tu as une Coupe du Monde à jouer, avec les risques de blessures, de l'été, la fatigue, etc.
Non, bon. Moi, j'envoie les coiffeurs, j'envoie les coupeurs citron, moi.
Non, ça va en juin. Juin, t'as jusqu'à novembre. Oh.
Mais on sait bien que.
Juillet, août, septembre, octobre, novembre, t'as 6 mois.
Mais Nasser, tu sais bien qu'à partir de juin, on tombe dans la phase dite de l'été austral au Cameroun.
Et alors ?
C'est la saison des pluies. Ouais. C'est là que tes joueurs. Attends, ils quittent l'hémisphère nord pour aller dans l'hémisphère sud, et puis après, ils vont retrouver le
niveau. Mais à l'origine, Mohamed.
Il y a un problème là, où climat.
Non, non, mais à l'origine.
Climat, Nasser, là.
Non, Mohamed, à l'origine, c'est. Les Coupes d'Afrique sont programmées pour juin. Ils n'ont pas été programmées pour... C'est fini, janvier. On le voit là, actuellement, parce que ça a arrangé... c'est avec l'histoire du Covid qui a remis la Coupe d'Afrique en janvier. Mais à l'origine, c'est prévu juin. C'est en place et c'est comme ça maintenant. On sait que c'est janvier, juin. C'est pas janvier. Là, c'est exceptionnel. C'est à cause du Covid.
Oui.
Qu'il y a ça. Donc, s'ils remettent là un an près, je vois pas que ça va déranger sur les joueurs. Après, tu fais des choix. Après, t'es entraîneur. C'est comme tu fais des choix avec ton groupe, avec ton équipe. Est-ce que tu vas refaire la Coupe d'Afrique? Est-ce que tu joues la Coupe du Monde? C'est des choix. C'est pas plus que ça. Après, bon, les joueurs seront prêts. Ils seront là au mois de janvier. Ils font des matchs.
Ah, mais le truc, Nasser, c'est que cette Coupe d'Afrique là, ouais, de janvier, déjà, elle gêne tout le monde. Au premier rang desquels, depuis longtemps. Aujourd'hui, les grands clubs européens, qui sont aujourd'hui ceux qui ont la puissance financière entre leurs mains.
La puissance, tout simplement,
géopolitique. On a même vu Liverpool avec Klopp qui a déjà demandé, parce qu'il y a le Boxing Day fin décembre, à ce que Sadio Mané et Mohamed Salah n'aillent pas à la CAN. Cette Coupe d'Afrique, elle dérange tout le monde. Et donc, en fait, en coulisses, ça arrangerait bien du monde que cette CAN ne se fasse pas.
Bah, demander si c'est pas fait exprès.
Voilà. Non, mais.
Oui, on se pose des questions.
Deuxièmement, quand on parle de cahier des charges, je sais pas exactement. Le problème, c'est que quand il s'agit d'organiser une Coupe d'Afrique en juin, à 24 équipes, parce que maintenant on a une CAN à 24,
c'est ça.
Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais quand je vois que la Côte d'Ivoire et la Guinée étaient dans l'organisation pour 2021
et 23 normalement,
et 2023, moi ça me donne envie de rigoler.
Oui.
Et qui, si c'est pas des pays, c'est pas des pays qui ont les infrastructures aujourd'hui pour accueillir 24 sélections.
C'est l'héritage de Hayatou.
C'est complètement impossible. Aujourd'hui en Afrique, quel pays? C'est une petite poignée de pays qui peut se permettre d'organiser une CAN tous les deux ans à 24 et qui a en plus ça toutes les infrastructures. Donc moi je suis pas surpris. Rappelez-vous les CAN précédentes, c'était quatre stades en règle générale.
Oui, quatre. Ouais.
C'était moi je me rappelle de la CAN en Angola par exemple, c'était quatre stades dans quatre villes. Ça n'a rien à voir avec l'événement actuel. Avec 24 sélections, donc avec les infrastructures qui vont avec des pays qui ont la structure économique pour la faire.
Il faut que tu saches que c'est aussi pour ça qu'on nomme des pays qui n'ont pas les infrastructures, qu'on les nomme pour organiser les Coupes d'Afrique, pour qu'ils puissent se construire.
Okay.
Si tu enlèves ça, si tu retires ça, il n'y a plus de construction.
Manifestement, l'oseille est partie, je ne sais pas où, parce que ces pays n'arrivent pas à.
Si. Cameroun, je connais, j'ai vu. Il y a des stades, ils sont déjà en place, ces stades. Hein.
D'accord. Oui, non, mais c'est parce qu'ils ont fait le chan. Oui. C'est pour ça que j'en parle là.
Ils ont les moyens, on leur donne les moyens déjà bien avant.
D'accord.
Bien sûr. Bah, maintenant, si tu leur retires ça, tu leur donnes pas ça, ils se construisent comment alors?
Non, mais c'est un répond que tu veux.
C'est aussi un défi de développement économique pour ces pays.
C'est exactement ça.
Oui, on est d'accord.
Le transport, l'aviation, l'hôtellerie, les stades.
D'accord.
C'est parce que tu les nommes comme ça que tu les obliges à construire du neuf, à faire du neuf ou du beau, du train, pour que ces pays-là puissent accéder au développement. Si tu fais pas ça, c'est bon. Comme les Jeux Olympiques, quand tu fais les Jeux Olympiques, tu mets le niveau dessus. Comme la Coupe du Monde, tu mets Qatar. Qatar est fait, t'as vu ce qu'ils ont fait déjà. Pff, c'est monstrueux. C'est aussi ça. C'est pas que la Coupe d'Afrique. Hein. C'est aussi le fait que voilà, ça les oblige à construire des vrais équipements ultra modernes dans des villes, dans des pays qui avant, on prenait des villes comme elles étaient, dans des endroits. Moi, j'y vais en 2000, l'hôtellerie, il y a toujours à revoir. Hein. Même beaucoup de choses. Hein. Mais heureusement, je suis allé à Accra, au Ghana. Mais même là, c'était ric-rac. Maintenant, tu vois que les conditions sont réelles. J'ai vu le terrain du Coton Sport. Moi, j'ai joué sur un terrain de leur réplique. C'est une catastrophe. Là, j'ai vu, c'est un billard.
Oui.
C'est un beau stade, magnifique. Ah, tu dis, c'est la Coupe d'Afrique qui amène ça. Hein.
D'accord.
Donc c'est compliqué pour des pays de dire non à ça. Et ça, c'est un règlement de compte politique entre eux, là.
Ouais.
Et ça prend une telle proportion que.
Ça a toujours été comme ça, la CR, entre la présidence et la fédération.
D'abord,
Cameroun, c'est connu.
D'accord.
Ça n'est pas d'hier. Donc aujourd'hui, je pense que quand ils ont réglé leur problème, le Cameroun doit impérativement organiser cette CAN. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre, sinon là, on va être pris pour vraiment.
Danon de la farce.
Les Danon de la farce, comme étant vraiment la risée du monde.
Ouais.
C'est ça que je veux dire. Donc autant l'organiser et allons-y, quoi. Vaille que vaille. Allez, une dernière pause avant de se retrouver. J'ai Morad et puis j'ai. On va parler cette fois-ci de Mehdi Serbah.
Foot de sport. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Jusqu'à 20h. Sur Beurre FM.
Il nous reste un petit quart d'heure pour finir cette émission avec un dossier dans un instant sur Mehdi Serbah. Rabbi Rahmo, l'ancien gardien de l'équipe d'Algérie, c'est, moi je me rappelle, il n'était pas grand, Mehdi, hein, et, je crois que c'est 1m78 ou 1m80, pas plus. Et puis, c'était un, comment dire, en espagnol, el gato, le chat, qui bondissait. El gato, ouais, mais, alors, en Kabyle, c'est plus pour monsieur Mchich. Voilà. Et du coup, il y a eu, notamment pour ceux qui ne le connaissaient pas, ben nous, on le connaît parce qu'on suivait quand même les championnats d'Algérie, la JSK, etc. Et ceux qui l'ont découvert, c'était lors du match Algérie-RFA en 82, où il a écœuré des garçons comme Roubaix, comme Rumenigu, etc. Et tout. Il a arrêté, vraiment, il a fait un gros, gros match. Mehdi Selbah nous quitte à l'âge de 68 ans. C'est un ancien qui est venu de. Il a commencé Nasser chez les juniors à l'USMA avant d'atterrir plus tard à Cuba. Mais avant Cuba, il a quand même une grande partie de sa carrière à la JSK. Et à l'époque, à la JSK, il y avait de très grands gardiens de but. D'abord, il y avait, je me souviens, d'un certain Tahir. Les Tahir étaient trois. Il y avait deux joueurs qui étaient attaquants Mouloudia et le gardien était à la JSK. Ensuite, la JSK est allée chercher un superbe gardien à Kouba, qui est quand même une grande école de gardiens, Abdelrazak Harab. Et Harab avait justement pris la place de Mehdi Selbah. Et ce qui s'est passé, ce qui a marqué les esprits, c'est notamment en 1977, lorsque la JSK gagnait pour la première fois la Coupe d'Algérie 2-1 contre le Nantes. Et dans les buts, il y avait un certain Abdelrazak Harab qui avait pris la place de Mehdi Selbah. Du coup, c'est comme s'il s'est senti un peu frustré, etc. Bon, à l'époque, tu pouvais rien dire à Mehdi Khalaf, c'était impossible. Et il est retourné à Cuba pour finir sa carrière parce que à Cuba, il a retrouvé tous ses potes, hein, l'époque les Assad, les Qassi Saïd, etc. Et tout. Et Cuba aussi était un vivier de footballeurs, mine de rien. J'aimerais bien qu'on retrouve aujourd'hui un 6 comme Qassi Saïd, aujourd'hui qu'on n'a pas, quoi. T'en penses quoi, toi, Nasser de Mehdi Selbah?
C'est bien, t'as très bien résumé son parcours. Moi, je le connaissais bien, c'était vraiment un ami. Hein.
Ouais, d'accord.
J'ai appris à le connaître en Algérie, ouais. on s'est vu souvent, et même il devait faire partie de mon staff à un moment.
D'accord.
Et Hanashi n'a pas voulu.
Ah, c'est Moshev qui n'a pas voulu.
Ah, oui, bien oui. Bah oui. Ah, lui, il avait des. Tu sais, quand tu faisais rentrer les anciens, ouais. Je le fais rentrer les anciens, mais bon. Ouais. Moi, je connaissais Mehdi Selbah, en plus, c'était l'ami de Nono, hein. Grand ami à Nono, hein. Ah oui, grand ami à Nono, hein. Et Mehdi, comme tu parlais, à Cuba, dans le café des sports, là-bas, on se retrouvait souvent, et c'est fou, parce qu'il est en. Je sais pas de quoi il est décédé, mais.
On n'en sait pas plus sur sa maladie, on dit qu'il a quand même combattu une maladie.
D'accord, ok. Et c'est un super garçon, hein. Super garçon. Hein. Ça, il était pas très grand. Hein.
Oui.
Mais c'était une bombe explosive d'une vitesse éclair. Et voilà, tu as tout dit, Mahmoud, tu as tout dit, que Dieu l'accueille dans son vaste paradis, qu'est-ce qu'on dit dans cette période-là, on n'entend que ça aujourd'hui. Même des garçons comme ça, il avait quel âge, 65 ans?
68.
68 ans.
Ouais, c'est un 54, hein, Nasser.
Ouais, 68, on compte.
Ouais, c'est jeune.
Ouais, il avait encore le temps, hein.
D'ailleurs, récemment, on en a perdu beaucoup. Il y a eu Rachid Dali, tu t'en souviens, Nasser, qui l'a bien connu aussi.
Bien sûr.
Il y en a un qui est aujourd'hui très très gravement malade. On demande à ce qu'il soit rapatrié vers la France. C'est l'ancien avant-centre justement de la JSK, Alastair Koufi. Voilà. Malheureusement, comme tu dis, Nasser, des cas comme ça, en période de Covid, ou lorsque les joueurs arrivent à un certain âge, il y a un temps pour tout, quoi.
Bientôt. Ouais. Le temps prend son temps. Toujours.
Alors en plus de ça, c'est vrai qu'à l'époque, il a même entraîné du côté du Qatar, de l'équipe d'Al Rayyan, là où joue actuellement Yassine Brahimi. Ouais. L'équipe d'Al Sadd, c'est là où on trouve le fameux Bounjah. Donc c'est quand même, il est passé par ses. Par ses clubs, il a eu quand même 62 sélections.
Ah oui. Mais c'est le problème de l'Algérie, la reconnaissance. C'est des garçons qui partent, qui sont partis, qui partent sans que la nation sache qu'est-ce qu'ils ont fait, ces garçons-là. En France, on voit quand un garçon décède, tu as vu, toutes les télés, toutes les chaînes parlent de lui et rappellent ce qu'il a été pour la France. Et un garçon comme Mehdi Salbar, comme beaucoup d'autres, comme lui, qui ont vraiment été des modèles pour notre jeunesse, eh ben, ils partent sans qu'on sache qui ils sont. Vraiment. Tu vois.
Je rajouterai un assez à son palmarès. Ouais. 4 titres de champion avec la JSK. Ouais. 1 avec le RC Kouba.
Ouais.
5. Vainqueur des Jeux Méditerranéens en 75. Ouais. Ouais. Vainqueur des Jeux Africains en 78. Finaliste de la CAN 80 perdue au Nigeria.
Ouais.
On se souvient dans quelques conditions. Et forcément, il a participé à cette fameuse Coupe du Monde 82. Où il a vraiment brillé, notamment lors de ce fameux match gagné contre l'ex-Allemagne de l'Ouest.
Tu as vu quand le reportage du match, on ne voit que lui.
Oui, c'est
on
vrai.
On voit que Mehdi Salbah.
Ah oui, parce que.
Tous les arrêts, tous les arrêts qu'il a fait.
Forcément, hein, t'as pas vu, les Allemands, ils bombardaient là. Ouais.
Ah bah oui. Ouais. Et les Panzers.
Ah non, mais là, c'était des divisions. C'était vraiment les divisions Panzers qui allaient dans le but.
Ah.
Et comment il a. Mais vraiment,
ah oui, oui, oui. Il a pris qu'un seul but. Ah oui, 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 oui. Moi, j'ai encore, là, quand tu parles, je vois encore les arrêts.
Ah oui.
C'est. Magnifique. J'en ai parlé en plus à bord. J'ai dit, Mehdi, on dirait que t'étais comme le triporteur. T'as vu le filtre?
Et qu'est-ce qu'il t'a répondu alors?
Il a rigolé,
Ah non, mais. Franchement, c'est bien de se rappeler quand même ces souvenirs de.
C'est ça.
Vraiment des joueurs. C'est parce qu'un joueur de football, avant tout, c'est un artiste. Hein. Le foot, pour moi, le sport, c'est de la culture. Ça t'amène du bonheur. Et un footballeur sur un terrain, moi, il m'amène du bonheur.
C'est clair.
De l'émotion. Quel que soit son statut, etc., ça restera toujours un joueur parce qu'il est là pour apporter du bonheur. Ouais. Et puis, nous aussi, on sait le lui rendre. C'est ce qu'on fait avec Mehdi Salbah. Il me reste très peu de temps, je prends Mourad. Allez, on a 5 minutes pour finir l'émission. Bonsoir Mourad.
Oui, allô, bonsoir.
C'est Mourad.
Bonsoir à toute l'équipe. Pour juste une petite correction, Mehdi Salbah, il faisait 1m74, il est encore
plus petit. Il est encore plus petit que ça.
C'est ça que j'allais dire.
Vraiment. Et moi, je l'ai découvert aussi ce fameux 16 juin 1982 à Rijon.
Oui.
Et il y a cette fameuse frappe de Hans-Peter Briegel à la 88e minute, il va la chercher quasiment en pleine lucarne.
Ouais.
Et on menait 2-1 à ce moment-là. Et c'est vrai que c'était un gardien, c'était un chat, exactement. Il avait une vivacité, il n'était pas pire. Enfin, c'est dommage.
Mais tu te rends compte, c'est un Mourad. Ben oui.
Dans la différence la plus totale.
C'est ça.
Parce qu'il est mort à 68 ans chez lui, on l'a appris comme ça. Enfin,
exact.
En plus de ça,
il a
énormément souffert. On ne sait pas de quoi il est mort, mais c'est dommage, voilà, c'est des grands messieurs qui partent comme ça.
Non, mais je suis d'accord avec toi. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que, comme tu le dis, là, 1m74, aujourd'hui, si tu ne fais pas 1m90, t'es pas retenu.
Moi, je le savais, moi, je ne vais pas te le dire, mais comme il était à côté de moi, il était plus petit que moi, vraiment. Là, j'ai dit, putain, mais dis, comment tu vas. Mais il me dit, tu sais pas ce que j'ai dans les jambes aussi.
Ah oui, il t'a dit ça. Hein.
Ah oui.
Oh, ma carrière. Non, mais franchement, là. Ah, tu vois, tu me donnes la chair de poule, là, Nasser, parce que tu. Vas-y, Mourad, vas-y.
Oui, et puis pour revenir, je veux dire juste à Malik, c'est pas un propos raciste, il est gitan, c'est tout. Il n'a rien à voir avec le bled, c'est un simple opportuniste. J'ai rien dit de.
Non, c'est vrai, après, écoute, on a des amis gitans, il faut le savoir. Hein.
Ah non, c'est tout, je vois pas en quoi ce que je dis est grave, quoi. Puis pour revenir, je voulais juste vous rappeler par rapport à la Coupe d'Afrique.
Ouais.
Je veux dire, à Mohamed, t'as fait une tribune entre guillemets fantastique. Mais juste rappeler une chose, il faut rappeler que dans les années 80, la Coupe du Monde 82, 86, oui. 90, je voudrais juste rappeler que les Coupes d'Afrique, elles se jouaient au mois de mars à 3 mois de la Coupe du Monde.
Je me souviens, oui.
Tout à
donc
fait.
Les gens, à mon avis, ils se sont dit pourquoi pas faire ça
au exactement
mois de la Coupe du Monde au mois de novembre.
Ouais, donc ils
sont restés dans cet état d'esprit. À l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait que 8 équipes.
Et puis il y avait deux ou trois équipes qui partaient en Coupe du Monde.
Oui, voilà, exactement.
C'est ça aussi.
En 82, Algérie.
Et Cameroun.
Algérie-Cameroun. En 86, Algérie-Maroc.
Ouais.
En 1990, Égypte-Cameroun.
Oui, c'est ça. Et deux équipes à chaque fois.
À l'époque, pour gagner une Coupe d'Afrique, il fallait jouer 5 matchs.
Oui.
Et aujourd'hui, pour gagner une Coupe d'Afrique, il faut jouer 7 matchs.
Ah, ben voilà la différence.
Donc la différence, je pense qu'ils se sont dit pourquoi pas. Et en 1990, 90, par exemple, le Cameroun et l'Égypte avaient envoyé en Coupe d'Afrique à Alger.
Oui.
Leur équipe B.
C'est vrai. Je me souviens, donc,
En 82-86, on avait envoyé notre équipe type.
Ouais.
Et les résultats en 1982 étaient bons. En 1986, on a vu ce qui s'est passé.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils sont partis dans cet état d'esprit. Pourquoi pas la jouer au mois de juin et puis la Coupe du Monde au mois de novembre, comme on faisait il y a 30-40 ans. Et moi je pense sincèrement que la Coupe d'Afrique aura bien lieu au Cameroun, parce qu'à mon avis ils n'ont pas fait un tirage au sort, ils n'ont pas fait tout.
C'est ça. Tout, oui.
Cérémonie d'ouverture pour rien, cette cérémonie ouais. du tirage au sort pour rien, et Cora c'est juste pour vendre du papier.
Oui.
Moi c'est mon opinion, moi je vous garantis qu'elle aura bien lieu cette Coupe d'Afrique. Ils seront bien organisés le Tchad sur de super belles pelouses.
C'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans mon introduction, à savoir que ils ont organisé le Chan. Pourquoi à deux mois on provoque ça? On sait qu'il y a toujours eu des problèmes entre la présidence du Cameroun et la fédération. Ça date pas d'hier. C'est pas la première fois. Du temps de Jacques Roux, ils m'ont parlé de ces problèmes. Jacques, il était au courant de ça. Par contre, Morat, je suis d'accord avec toi sur le fait que il faut absolument qu'elle ait lieu maintenant, pas en juin.
Il aura bien lieu. Et la Coupe d'Afrique commence le 9 janvier, c'est ça ?
Le 9 janvier normalement, ouais. Moi je préfère qu'il la joue maintenant. Tu sais pourquoi ? Parce que en décembre, on aura le tirage de sort des matchs de barrage et ceux-ci vont se jouer au mois de mars.
Oui,
donc voilà, tu comprends ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Ouais. Pour éviter les problèmes.
En plus, c'est par l'enjeu. On sait très bien que le football, c'est le opium du peuple.
Ah, tu peux le dire, ouais.
Ils vont pas arriver les Camerounais à domicile avec Paul Biya, le dictateur en place depuis 40 ans.
Ouais.
Je pense qu'il fera tout pour que la Coupe d'Afrique ait lieu. Pour calmer. Voilà, c'est tout. Voilà.
Non, mais je suis d'accord, moi. Moi, je suis partisan. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis partisan que cette CAN ait lieu en janvier et non en juin. Simplement.
Ah, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Moi aussi, je le crois aussi. Je pense que c'est la meilleure solution, même si les clubs européens pâtissent un peu avec l'absence de leurs joueurs vedettes.
C'est vrai.
Mais il faut savoir que, au mois de juin, encore qu'au mois de juin, si elles se jouent dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, où le climat est plus clément, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas les jouer au mois de juin. Comme ça, on fait comme en Europe. On fait voilà, quoi. Mais juste une question, Michel Platini pour finir. Hein.
Oui.
Michel Platini, il a rejoint le Juventus en quelle année ?
82.
En 82, c'est bien ça, hein ?
Ouais.
Ah ouais, c'est ça, parce que j'ai
avant, pardon, avant ou après la Coupe du Monde ?
Après la Coupe du Monde 82, c'est ça ?
Ouais, je sais pas exactement, tu vois.
Non, mais parce que je pense qu'il avait joué avec 6 champions du monde, les Rossi, Barbelli, Cabrini.
Ouais.
Dire que moi aussi, mon nom, il se finit en I, hein, donc on m'a dit qu'il ressemble à... je ne veux pas te dire mon nom, mais il finit par qui, quoi, il le connaît. Donc, les Italiens, je suis un peu italien, il parle.
Oui, c'est vrai, Colombati, Oriali. Oui, t'as raison, Morat.
C'était pour finir sur cette petite note. Ouais. Puis je voulais pour finir, vous remercier. Vous faites une émission fantastique. Et merci de donner la parole à vos auditeurs chaque semaine. Parce que sur, par exemple, une radio concurrente française, je crois que c'est en 08. Donc, à la fin, la facture de téléphone devient lourde, quoi.
Ben oui, non mais le. C'est le mec. Merci, mon Adam. Bonne soirée.
Merci beaucoup, à la semaine prochaine.
Bon. Ok. Non mais c'est vrai.
Je suis demandé.
Non mais attendez.
Il faut payer les téléphones, c'est bien.
Pourquoi ?
Il faut payer.
Oui, les téléphones. Non mais attends, c'est quand même sidérant aujourd'hui. On vous demande de composer un numéro de serveur. On vous dit ça coûte tant à la minute, etc. Et puis quand tu appelles, tu es en attente. Hein. Est-ce que tu es pris ou pas ? Et tu raques, puis à la fin, celui qui est derrière le micro, il te coupe plusieurs fois. Donc, ce que tu as à dire, c'est pas grand-chose par rapport à toutes les coupures que tu subis. Et au final, tu te retrouves à payer pour avoir dit « Ouais, on a manqué de sérieux, on s'est loupé, etc. Bon, »
Comment on a sérieux ?
Je pense que Sofiane doit être au courant de tout ça.
Non, moi, c'est la radio en question qui m'appelle, les gars. Donc, en numéro privé, je dis.
Voilà. Attention, Sofiane est montée de grade.
Parce qu'il l'appelle plusieurs fois avant.
Non, mais c'est Nasser, il est mauvaise langue, Nasser.
Nasser,
il est mauvaise langue, Nasser.
Non, jamais. Moi.
Non, ou alors il fait partie de ce qu'on appelle. Non, mais coach, ou alors Sofiane fait partie de ce qu'on appelle les auditeurs favoris.
Voilà. Il a un statut en plus.
Oui, bien sûr qu'il a le statut.
Tu reçois un peu les maillots et tout, j'espère que tu reçois moins les maillots.
Ouais, j'ai déjà reçu des livres, j'ai déjà reçu des t-shirts. Je te jure. Le livre de Riolo, je l'ai reçu par exemple.
Ah bah tiens.
Dédicacé en plus.
Ouais. La bataille, c'est ma vie.
Je parle sur le football français.
Raqué, c'est ma vie.
Raqué Football Club.
Oh, <pire. rire>
Bon, bah écoutez, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci d'avoir été fidèle au poste. Puis l'émission a été très, très dynamique. On aura le plaisir de se retrouver dimanche prochain, comme le veut la tradition, 18h-20h sur les antennes de Beurre FM. 20 fréquences, je vous l'ai dit, Limoges sur le 91. Montpellier sur le 96.4 en supplément. Salut.